OK, voilà, on commence à enregistrer. Donc, je pense qu'on peut y aller. Nous avons 17 personnes, mais c'est de toute façon, on n'a pas vraiment un grand groupe. C'est très focus sur l'Afrique du Nord aujourd'hui. Hein. Peut-être tu peux faire une brève introduction et commencer.
Sorry, can you tell me the other name of Younes? I couldn't.
Younes Touita.
What?
Touita. T-O-U.
Twitter.
Yeah.
T-O-U, okay, all right. Yeah.
OK. So, je vais demander en fait à tous les collègues, si vous ne parlez pas, il faudrait mute le mic, hein, arrêter le micro, parce que sinon il y a des bruits de fond. Donc, on peut le faire d'ici, mais bon. Et quand vous connectez aussi, à chaque fois, il faudrait mettre le micro en veille, en mute, comme ça fait moins de bruit et puis on peut suivre. OK, donc je vais me mute moi-même tout de suite et puis Younes, je vous passe la parole et on fait d'abord cette présentation. D'ici là, les autres vont nous rejoindre et ensuite, peut-être moi, je vais faire une petite. On pourra faire un petit démo du site lui-même, petit tour de table sur qui est enregistré, quelles sont les difficultés, etc. Et puis on peut à ce moment-là zoomer sur les projets concrets de la région Nord. Et le processus de soumission des projets.
D'accord, merci Thomas.
Il y a quelqu'un qui essaye de parler, il y a un micro.
Madame Halima, je pense.
Ça va, bon, donc j'ai réglé en plein écran, pour le moment je vois tout. Donc,
Ah, d'accord, merci.
je m'excuse hein, pour
Non,
le
non.
dérangement.
Pas de problème.
Non, ça n'a pas de souci.
Donc, vas-y, Younes, ok. Donc c'est à vous,
Merci,
Younes. Hein. Allez, merci.
Krishna. Merci, Krishna. Aujourd'hui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une session qui est consacrée à la région Nord. Comme vous le savez tous, il est prévu une formation à sa place avant le coronavirus, mais vu cette situation. L'approche du corridor intégré et le PIDAPAP 2. Grand Krishna.
Oui, on t'entend, Inus.
D'accord. Krishna, voilà. Est-ce que tu peux... D'accord, merci. C'est bon. L'approche des corridors intégrés est utilisée comme une base conceptuelle. Donc, il y a la vision, pour résumer, il y a la vision de l'agenda 2063. Qui traduit la vision de l'Union africaine, qui prend plusieurs paramètres et plusieurs dimensions. Par exemple, la planification multi-infrastructure. Donc, il n'y a pas un corridor qui est seul, mais il y avait une multitude, une multisectorielle. Elle favorise la promotion de l'emploi. Pour la protection du climat, l'inclusion du genre et la connectivité rurale. Donc, pour faire cela, cette approche doit être intégrée en critères. Donc, comment intégrer cette vision en critères? C'est ce qu'on va voir dans le prochain slide. L'importance de la sélection des projets prioritaires, c'est quoi? C'est une nécessité d'identifier des projets viables et réalisables conformes à la vision de l'Union africaine et de l'agenda 2063, ce qui nécessite une grande quantité de projets régionaux et des ressources financières et capacité de mise en œuvre limitée. Donc, c'est pour le but, c'est de faire du PIDAPAP 2 un portefeuille solide d'actions prioritaires reflétant la vision de l'Union africaine, comme on a déjà dit. Donc, pour le next slide, donc pour traduire le concept de cette approche en corridor intégré, doit avoir des sélections claires et applicables, des critères. Donc, c'est pour mesurer la capacité d'un projet donné à répondre au concept d'approche des corridors intégrés et de discriminer entre les projets afin de donner la priorité à ceux qui reflètent le mieux la vision de l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063. Pour cela, il y a un processus. Le processus est le suivant. Next slide, please. Donc, les étapes. Il y a plusieurs étapes. Nous, il y a la première étape, c'est la discussion du principe du PIDA. Commission de l'Union africaine, ordonnée par les règles, les Member States sont concernés par cette étape. La deuxième étape, là où on est, c'est l'identification des projets. Donc ça, on est là, dans la phase de l'identification des projets et la soumission des projets sur le et qui fait cette étape, c'est vraiment les États membres et après les règles. Les autres étapes, c'est l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5. C'est la soumission continentale pour les États membres. Donc, la formation, donc en principe, la formation des États membres, c'est parti, on est dedans aussi maintenant, et c'est fait par les membres de la task force. Après, vient l'étape 4, c'est l'étape de la sélection de projets. Donc, on va passer, pour le secteur du PIDA, il y a quatre secteurs. Il y a le secteur du transport, le secteur de l'énergie, le télécom et les autres compagnies. Pour le transport, il y a les portuaires maritimes, ferroviaires, l'aviation, pour l'énergie de génération, l'infrastructure, connectivité terrestre, fibre optique, d'échange Internet, les centres de données. Et pour les eaux, il y a les barrages d'irrigation, barrages à usage multiple et le transfert d'eau. Donc, plusieurs étapes. Et donc, le but du prochain slide, c'est de vous montrer les étapes, des étapes de ce processus PIDAPAP 2 de 2020. Donc, c'est le but d'arriver au sommet de 2021. Donc, le but, c'est que en janvier 2021, il y a le sommet des chefs d'État, là où ils vont adopter les 50 projets qui sont sélectionnés pour le PIDAPAP 2. Il y a plusieurs étapes prévues à ce stade. Donc, on va passer directement aux critères. Donc, le critère et les critères, il y a deux catégories. Il y a les critères, ce qu'on appelle les critères d'éligibilité et les critères de sélection. Donc, les critères d'éligibilité sont deux critères principaux traduisent l'intégration régionale. Le prochain slide, c'est... Donc, deux critères principaux traduisent l'intégration régionale. Premièrement, un projet doit être régional. Donc, projet transnational ou projet national avec un impact régional. Il faut démontrer, voir la définition dont on va voir dans les rapports. Un projet doit faire l'objet d'un accord clair entre les pays concernés, ou bien clairement exprimé dans le formulaire de soumission, voire la sélection. Soit qu'il est un accord clair entre les pays concernés, ou parfois il est adopté dans le master plan du REC. Donc, il est sous-entendu qu'il y a un accord entre les pays pour qu'il soit dans le master plan du REC. c'est binaire. Donc, après, on va passer aux critères de sélection. Les critères de sélection, il y en a 8. Les critères de corridor, les projets doivent être en synergie avec une infrastructure existante ou prévue dans un autre secteur. Donc, on peut utiliser les bases données cibles. Critères d'emploi, les projets doivent maximiser la création totale d'emplois dans les zones adjacentes, tant pendant la construction que pendant l'exploitation. Il y a un outil de Audan Nepal qui s'appelle PIDA Job Toolkit. Critères environnementaux, les projets doivent minimiser les quantités d'émissions de CO2, méthodologie de quantification des émissions de CO2 dans les infrastructures. Critères de genre, les projets relevant du PIDA PAP 2 doivent proposer des actions qui pourraient accroître les possibilités d'infrastructure. Critères de connectivité rurale urbaine, les projets doivent toucher un maximum de personnes vivant dans les zones rurales, population rurale touchée par le projet dans un rayon de 100 km. Critères économiques, les projets doivent être mis en œuvre dans les plus qui ont le plus besoin d'investissement en infrastructure. Donc, il y a l'indice ID qui est un banque africaine de développement. C'est celui-là. Les critères financiers, les projets doivent présenter des caractéristiques qui ont fait leur preuve pour attirer les financements privés. Données historiques des investissements privés dans les sous-secteurs privés. Et les critères d'innovation, les projets doivent présenter des approches opérationnelles, innovantes ou des caractéristiques technologiquement avancées. Donc, la proposition de groupement, de regroupement des critères sous une seule référence. Soit, donc, il y a la catégorie intégration régionale, donc, soit c'est un projet régional, oui ou non, un accord clair des pays concernés, oui ou non. Inclusivité et durabilité. Donc, après, les critères, on a donné un poids pour chaque. Avec un pourcentage de 10%. La connectivité rurale, 5%. Respect du climat, 10%. Donc, l'inclusivité et durabilité, c'est 25% au total. Impact économique et financier. Planification corridor 15%, création d'emplois 10%, impact économique 25%, attractivité financière pour les investisseurs du secteur privé 10%, innovation 5%. Et ce qui est ici, donc il y a 45%, ce qui est donné à l'impact économique et l'attractivité financière. Et ces deux critères, on va voir comment ils sont expliqués. L'innovation, c'est 5%. Next slide. Donc, combinaison de critères nominaux proportionnels. Critères d'évaluation nominale sur la base de performance pour le critère de corridor. Les projets doivent, donc ça, peut-être on a un petit peu, on ne va pas revenir là-dessus. On va voir, on va passer directement par au prochain slide. Ça, on a déjà dit. Critères relatifs au corridor, son poids c'est 15%. Donc, évaluer la capacité de chaque projet proposé à une infrastructure existante ou prévue dans un autre secteur. La cartographie ici, ou bien il y a le site VPIC de Audan Nepal par exemple, permettent de vérifier si un projet donné chevauche géographiquement au moins un autre actif d'infrastructure ou sert un autre actif. Exemple, un port avec une route régionale. Donc, si notre corridor ou bien notre route elle chevauche ou bien elle entre en interaction avec un autre projet existant ou planifié. Sur le projet Salini, ou dessert une infrastructure existante ou prévue dans un autre secteur. Plus le score obtenu sera élevé. On va vous donner des exemples pour l'expliquer. Ce travail sera effectué en utilisant l'ensemble des données existantes du PIDA qui sont incluses dans le centre d'information virtuelle du PIDA. Donc, le centre, lorsque vous êtes sur le site de soumission des projets PIDA PAP 2, il y a un petit onglet en haut au-dessous de votre nom et s'appelle VPIC. Donc, c'est là, est-ce que vous pouvez entrer et voir. Et voir tous les projets qui ont été dans le PIDAPAP. Donc, vous redirigez vers un autre lien. Donc, next slide. Donc, maintenant, comment on va exploiter ce critère? On va donner le score 1 si le projet ne sert pas à un actif d'infrastructure existant ou prévu dans un autre secteur. Donc, il y est tout seul. Il ne chevauche avec rien. On va lui donner le score 2 si le projet sert à un actif d'infrastructure prévu d'un autre secteur, mais il y a moins de 50% de chevauchement entre la géographie desservie par le projet proposé et l'actif prévu de l'autre projet. Donc, il y a un chevauchement de 50%. On va donner une note de 3 si le projet sert un actif d'infrastructure existant dans notre secteur, mais il y a moins de 50% de chevauchement dans la géographie desservie par le projet proposé et l'actif existant est de l'autre projet. Une note de 4 si le projet sert un actif d'infrastructure prévu d'un autre secteur, mais il y a plus de 50% de chevauchement entre la géographie desservie par le projet proposé et l'actif prévu de l'autre projet. Et une note de 5, si le projet sert un actif d'infrastructure d'un autre secteur, mais il y a plus de 50% de chevauchement entre la géographie desservie par le projet proposé et l'actif existant de l'autre projet. Donc, soit il chevauche ou ne chevauche pas, ou bien il chevauche moins de 50%, et, ou bien plus de 50%, ou bien le projet avec qui il chevauche, il est actif ou il est existant ou prévu. Donc, il y a 5 scénarios. Exemple, le projet d'interconnexion des réseaux de transport du Bénin est un projet proposé dans le cadre du PIDA. Ce projet obtiendrait une note élevée lors de l'exercice d'évaluation PIDA PAP 2 car il longe un corridor où un projet de transport est actuellement en cours de construction, donc il existe. L'objectif, c'est évaluer la mesure dans laquelle un projet proposé dans le cadre du PIDA PAP 2 maximise la création d'emplois. Le nombre moyen d'emplois annuels par million de dollars dépensés sera calculé à l'aide de la boîte d'outils de création d'emplois du PIDA. Donc, ça va être calculé, ce critère va être calculé. C'est le premier et les autres seront classés en proportion du premier. Donc, comment? Next slide. La boîte à outils de création d'emplois de ODA sera utilisée pour évaluer le nombre d'emplois potentiels par projet. La notation proportionnelle sera faite quand tous les projets sont connus dans le pôle régional. Donc, lorsqu'on va... on a des proportionnels, donc il faut connaître le premier, qui est le plus élevé. Donc, on doit attendre que tous les projets seront disponibles pour évaluer ce critère. Les projets qui ne produisent pas le plus grand nombre d'emplois annuels par million de dollars dépensés reçoivent un score proportionnellement au projet ayant créé le plus grand nombre d'emplois. Le projet ayant le plus grand nombre d'emplois annuels par million de dollars dépensés obtiendra 5 points. Donc, les autres seront proportionnels. On peut voir un exemple. Bon, selon la boîte à outils de création d'emploi du PIDA, le projet de route Lamu-Garissa et Solo, projet de route de Lamu, devrait créer en moyenne environ 16 000 emplois par an. Donc, selon cet outil, le Job Creation Toolkit. Ce projet serait évalué sur la base d'un rapport entre ce chiffre et ses CAPEX, ici 620 millions. Le ratio est donc 25,8 emplois pour 1 million de dollars. Le score de ce projet sera évalué comme une partie du projet ayant le meilleur rapport une fois qu'il sera connu. Donc, lorsqu'on va faire cet exercice pour tous les projets, entre le nombre prévu de création d'emplois qui est 16 000 et leur CAPEX, chaque projet, on va faire une liste de ce score qui est pris, par exemple, ici, 25,8, et on va faire un classement, et la note sera proportionnelle par rapport au premier qui a eu le score maximal. On peut voir le côté environnement qui a un poids de 10%. C'est la préférence pour les projets qui émettent le moins de CO2 pendant leur construction et fonctionnement. Les domaines détaillés dans le rapport seront appliqués pour mesurer les émissions de CO2 pour le projet qui émet le moins de CO2. De ça. Next slide. Donc, les émissions de gaz à effet par le cycle de vie du projet. Les projets qui ne produisent pas d'émissions les plus faibles par dollar investi reçoivent une note proportionnelle au projet ayant les émissions les plus faibles. Le projet ayant le moins d'émissions par dollar investi recevra la note la plus élevée. On peut voir un exemple là-dessus. Donc, selon le centre d'information vertueuse du PIDA, la centrale hydroélectrique de Mponda Nkuma coûterait 2,4 milliards. Donc, ça, c'est le coût d'investissement. 2,4 milliards pour une capacité totale de 2400 MW. 1500 pour la première phase et 900 MW pour la seconde. Selon la matrice d'hypothèse présentée ci-dessus, une centrale hydroélectrique émet 0,21 kilotonnes de CO2 par mégawatt par an. On peut donc supposer que la centrale hydroélectrique de Mponda Nkuma émettrait un total de 504 kilotonnes de CO2 par an, ce qui donne 210 grammes de CO2 par dollar investi. Donc, l'exercice sera fait pour tous les projets, par exemple, et le moins qu'il y a, le moins score, le moins ratio sera la note plus élevée de 5, les autres seront notés en proportion. Donc, le score climatique de ce projet sera évalué comme une partie du projet ayant le meilleur rapport une fois connu. Donc, une fois connu que lorsque l'exercice sera fait pour tous les projets. Merci. Oui. Donc, infrastructure régionale sensible au genre. Un poids de 10%. Le projet régional à l'étude sera examiné pour spécifiques mises en place. À chaque étape de la chaîne de valeur, le projet identifiera les contributions des femmes par le biais d'un examen des actions prévues dans le cadre du projet. Les CER devront indiquer le nombre et le contenu de chaque action proposée qui pourrait accroître les possibilités des femmes de participer à la chaîne de valeur des infrastructures. Par exemple, marché public préférentiel pour les petites et moyennes entreprises détenues par des femmes. Donc, il y a soit une note de 1 à 5, soit le projet comprend entre 0 et une action. liés aux marchés publics proposés dans la méthodologie de sélection pour soutenir la participation des femmes dans la chaîne de valeur. Ou bien deux, le projet comprend deux actions liées aux marchés publics, donc deux actions. Trois, une note de trois, soit le projet comprend trois actions liées aux marchés publics. Le quatrième, le projet comprend quatre actions liées au marché public proposées dans la méthodologie de sélection pour soutenir la participation des femmes dans la chaîne de valeur des infrastructures, ou bien une note de 5 si le projet comprend 5 ou plus des actions. Donc, il faut juste citer dans le site, dans la sélection du projet, il faut juste citer le cadre de ce projet. Un, deux, un, première action, deuxième action, troisième action, et le score sera en fonction des actions citées. On peut voir, par exemple, le programme sud-africain d'approvisionnement des producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Le projet recevrait une note de 5 sur la caractéristique de sensibilité au vent, car elle est conçue pour prendre en compte plus de 5 actions spécifiques liées au marché public identifiées dans la méthodologie de l'écran. Donc, ils n'ont pas cité les actions, mais c'est juste un exemple. Donc, le critère suivant, c'est la connexion spatiale des infrastructures régionales avec un poids de ce critère de 5%. Le projet ayant la plus grande connectivité rurale seront évalués favorablement. Le projet qui touche le nombre le plus grand de population rurale de la région recevra le score le plus élevé, sans monter en proportion. La définition de rural, c'est quoi la science pour dire que c'est un rural, c'est avec une agglomération avec moins de 50 000 habitants. Donc, est-ce que le projet touche une agglomération de moins de 50% d'habitants? La population rurale dans un rayon de 100 km d'un projet est estimée et comparée à la population totale. Voilà, donc c'est ça. Donc, les projets qui ne relient pas le pourcentage le plus élevé de la population rurale, moins de 50 000 personnes, recevront un score arrondi proportionnellement aux projets qui relient le pourcentage le plus élevé de la population rurale. Donc, c'est bon, on va expliquer ça. Le projet qui connecte le plus grand pourcentage de la population rurale, moins de 50%, reçoit le score maximum. Donc, on va utiliser ici, on va utiliser le système géographique d'information. On va voir où il est situé le projet. Sur un rayon de 100 km, on doit identifier les populations qui sont avec les agglomérations avec une population de moins de 58%. Et on va voir quel est l'impact de ce projet sur ces populations. Donc, on peut voir un exemple. Le chemin de fer à voie étroite Abidjan, Ouagadougou. Grâce à la cartographie civile, la population rurale totale, ville et village de moins de 50 000 habitants, vivant dans un rayon de 100 km autour du chemin de fer à voie étroite Abidjan, Ouagadougou, est de 15,4 millions de personnes. Donc ça, c'est le total des habitants qui ont moins de 50 000 habitants. En outre, la population totale de la région, de la CDAO, donc on ne va pas parler pays, on va parler région, est de 349 millions d'habitants. Ainsi, le chemin de fer à voie étroite Abidjan-Ouagadougou couvre 4,4% de la population rurale de la région. Ce projet recevra une note de X en fonction de sa connectivité relative par rapport au projet le mieux noté selon ce critère. Donc, lorsqu'on va avoir le critère qui est le mieux est noté par rapport à ce critère qui est Y, donc ce projet de Abidjan-Ouagadougou, c'est X sur Y. Voilà. économique, l'impact économique des infrastructures régionales. Ça, c'est, il a un grand poids. C'est un poids de 25%. Et en principe, c'est pas lié au projet. Ça, c'est un critère qui n'est pas lié au projet, mais qui est lié aux à l'indice de développement des infrastructures de chaque pays. L'indice de développement des infrastructures en région, AID, qui est un indice de la Banque africaine de développement, développé par la Banque africaine de développement, est pertinent pour évaluer l'impact économique des projets dans cette région. Les projets auront le plus grand impact économique dans les pays où la qualité et où l'accès aux infrastructures sont les plus faibles. Donc, ça, c'est normal. Donc, pour faire équilibrer, pour faire l'intégration économique, les... Par conséquent, les projets dont les pays bénéficiaires ayant les plus faibles scores aidés seront favorisés. Un projet ayant un impact sur un ensemble de pays dont l'indice aidé moyen est inférieur à 10 obtient la note la plus élevée. Inversement, un projet ayant un impact sur un ensemble de pays dont l'indice aidé moyen est supérieur à 50 obtient le score le plus faible. On peut voir la liste ici. La notation privilégiée, donc, et, par exemple, on peut prendre quelques exemples au hasard. Le Seychelles, elle est donc 94,3, donc c'est 50%, plus que 50, il obtiendra un score de 1. Par exemple, lorsqu'on prend le Kenya, le 25,6, c'est entre 25 et 50, et il a un score de 2. Et on va voir le projet, il intéresse quel pays, on va faire la moyenne, aider de chaque pays traversé par le projet. Donc ça, c'est indépendamment du notation nominale du critère économique. Le projet est situé dans, donc on a vu ça, donc on peut passer soit à 25, la note la plus élevée qui est de 5, la moyenne. On peut voir un exemple. Un acteur de transmission ZK constitue une ligne de transmission de 330 kV qui relie les réseaux électriques de la Zambie, de la Tanzanie et du Kenya. Le projet est situé en Afrique de l'Est. Grâce à la cartographie du projet à partir de la base de données des projets, donc, tu es parti au prochain slide. D'accord. Donc, c'était la moyenne. Donc, maintenant, le septième critère qui est le critère financier qui a un poids de 20%. Les projets des secteurs de PIDA les plus populaires auprès du secteur privé sur la base d'investissement des sont. Par exemple, alors que les infrastructures de connectivité terrestre dorsale, TIC, recevront la note la plus élevée en raison de leur capacité historique d'attirer les investissements privés. Inversement, les projets de barrage d'irrigation recevront des notes plus faibles car la tendance passée des investissements du secteur privé dans les infrastructures montre qu'il y a eu un peu d'investissement dans ce secteur privé. La notation est comme suit dans le prochain slide. Donc, on va donner une note de 1 pour les projets appartenant au barrage d'irrigation. La note 2 pour les projets appartenant au transfert d'eau, point d'échange Internet. 3 pour les projets concernant les routes, les chemins de fer et les aéroports, la production d'électricité, le transport d'électricité, le pipeline. 4 pour les projets portuaires et 5 pour les projets appartenant à l'infrastructure de connectivité terrestre et au centre de données. Donc, comme vous voyez, c'est indépendamment, c'est juste ça, ça n'a pas de relation avec les spécifications techniques du projet, c'est juste c'est quoi le projet et elle appartient à quelle catégorie d'infrastructure. Donc, voilà, c'est pour cela qu'on a encouragé les gens à soumettre leur projet parce qu'il y a 45% des projets qui sont indépendamment vraiment du projet, est-ce qu'il est détaillé, étudié, les études de détails et tout ça, donc il y a 45% entre projets financiers et projets de qui représentent 45%. Et le climat et la création d'emplois sont calculés automatiquement par des outils. On peut passer au dernier critère, qui est le critère d'innovation. Favoriser les projets qui présentent une forte innovation technique ou opérationnelle, l'objectif étant de planifier et de mettre en œuvre pour la prochaine décennie des infrastructures conformes aux tendances sectorielles et aux caractéristiques technologiquement avancées. La méthodologie sera basée sur l'identification de caractéristiques innovantes dans le cadre du projet proposé. Cet aspect innovant s'appuiera principalement sur les spécifications techniques du projet ou sur les modèles commerciaux associés. Par exemple, un projet énergétique basé sur les technologies solaires recevra une note de 3, tandis qu'un projet solaire PV incluant des batteries recevra une note de 5. Donc, l'annotation, c'est soit 1, soit 3, soit 5. Le projet obtiendra une note de 1 s'il ne présente aucune innovation dans ses aspects opérationnels ou ses spécifications techniques. Ou bien le projet recevra une note de 3 si le projet présente une innovation partielle dans ses aspects opérationnels ou ses spécifications techniques intelligentes. Peu de projets ayant les mêmes spécifications techniques ou le même modèle de fonctionnement ont été développés au cours des 10 dernières années. Ou bien elle recevra une note de 5 si le projet présente une forte innovation dans ses aspects opérationnels. Voilà l'exemple. Le projet NZEMA, avec une capacité installée de 150 MWh, ce projet situé au Ghana sera la plus grande installation d'énergie solaire du continent africain, offrant des possibilités d'exploitation d'électricité produite par des énergies renouvelables. Le projet utilisera des modules photovoltaïques. Bien que cette technique soit récente, de nombreux projets photovoltaïques ont déjà été mis en œuvre. Donc, le projet va recevoir une note de 3. Je pense que c'est tout. Donc le résumé de l'aspect prioritaire, le respect des critères, les autres critères et une liste. Donc voilà, donc on a dit il y aura 50 projets pour tout le continent avec 10 projets par région qui sont de 5, nord, sud, est, ouest et centre, plus les projets. Donc voilà, merci. Donc peut-être ouvrir le débat. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions là-dessus. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des éclaircissements.
Ok, merci Younes pour cette présentation très très détaillée. En fait, cette présentation nous sert en fait de formation aussi pour la région nord francophone, comme on n'avait pas pu faire cette formation précédemment. Je vois il y a pas mal de questions déjà dans la liste. Ok, donc. Alors, peut-être qu'on va prendre la liste des questions. Est-ce que je peux peut-être prendre la liste des questions et puis on va voir qui d'entre les membres du groupe de travail va répondre ou moi-même, etc. Donc, nous avons une question de
Sarah. Krishna.
Oui.
Krishna. Yes. Oui. Yes. Oui. Oui. C'est Michael Appareil. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis Salahou Mike de la Banque africaine de développement. J'ai préparé pour faire cette présentation, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt fait par mon collègue Younes. Sinon, la Banque africaine de développement est là. Et juste pour dire, déjà saluer les collègues qui sont connectés à cette formation et vous dire que même si on n'a pas pu faire la présentation tout à l'heure, là, demain, il y a la session anglaise qui sera délivré par la banque comme c'était prévu. voulais juste dire bonjour à tous les collègues et puis aussi me rendre disponible pour les questions éventuelles. Merci.
Oui, merci. Merci beaucoup, Mike. En fait, la section anglophone, c'est jeudi. Hein. Demain, on a une autre session pour la SADEC, mais la section anglophone va être jeudi. Donc, effectivement, ouais, en fait, je pense qu'on va à ce moment-là laisser en fait nos collègues anglophones plutôt faire la présentation, donc Mike et l'équipe de Labad. Mais bon, on va peut-être prendre les questions. Donc, vous pouvez voir les questions dans le chat, trop. Attendez, je vais. J'arrive pas à remonter. Alors, on va prendre une question de Halima. Les eaux souterraines sont incluses dans quelle rubrique? Alors, certainement dans. Peut-être qu'on peut revenir à la présentation des secteurs et sous-secteurs. Et vous allez voir sur le site Halima, vous aurez, une fois que vous cliquez les eaux transfrontalières, vous allez voir les sous-secteurs. Et bon, on peut regarder peut-être. Attendez. On va aller. Je vais peut-être revenir vers la présentation. Alors, voilà. Donc, transfert d'eau, barrage à usage multiple et barrage d'irrigation. Bon, si c'est de l'eau souterraine, je pense que ça devrait être. Peut-être Christine, vous êtes toujours là, Christine, vous êtes connectée?
Oui, je suis oui, là, oui. Krishna.
Alors, par rapport à cette question, dans quel sous-secteur de l'eau on pourrait classifier un projet d'eau de gestion de nappe phréatique d'eau souterraine? Certainement pas barrage, donc je pense que ça devrait être dans le transfert d'eau. Dans le troisième.
Oui, normalement, de toutes les façons, tous les sous-secteurs ne seront pas cités dans la fiche.
Ok, bon, on va peut-être. Attendez, on va voir. On va faire autre chose.
Peut-être Krishna à la partie où il y a la note.
Bon, je vais voir. On va voir sur le site en fait. Voilà le site.
Justement.
Voilà le site. Et allons regarder la forme de soumission déjà en ligne. Ça, c'est ce que vous allez voir quand vous. Bon, voilà. Vous voyez tous le site, la page de Basic. Bon, je vais mettre en français déjà pour commencer.
C'est les eaux transfrontalières, voilà.
Voilà. Donc, si on prend eaux transfrontalières, si on clique sur eaux, voilà les. Ah, il y a catégorie autre. Voilà, OK.
Donc, il y a. Oui, c'est ça que je voulais dire, Krishna. C'est dans la catégorie autre. Et d'accord. Puis, vous pouvez préciser les sous-secteurs si ce n'est pas affiché.
Voilà. Donc, si ce n'est pas affiché, il y a autre et il y a un petit casier où vous pouvez mettre eau souterraine ici et continue. Et, en fait, en même temps, ça nous sert à vous montrer en fait le site. Donc, peut-être que je vais enchaîner et profiter de prendre quelques minutes pour passer rapidement là-dessus. Ça, c'est le formulaire de soumission en ligne. C'est la seule façon de soumettre les projets. Donc, une fois que vous êtes inscrit et qu'on vous a alloué les droits d'accès, et pour faire ce travail de soumission, il faut avoir au moins un droit d'accès point focal national, dont la plupart, pas mal de. Dans chaque pays, on a au moins un cas, un point focal qui a déjà cet accès. Et sur la demande, en fait, si en liaison, en fait, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est de, s'il vous plaît, informer, rester en contact avec votre point focal CER pour faire la soumission de projet, et il faut qu'il soit au courant, et il faut qu'il sait, parce que c'est lui qui va valider ce projet, valider au sens est-ce que ce projet est vraiment un projet régional ou pas. Donc il faut discuter avec le point focal, dans votre cas c'est Younes et son équipe, Et il y a deux autres collègues. Peut-être, Younes, tu pourras présenter les deux autres collègues de l'équipe OUMA plus tard. Et donc, une fois que vous avez ce droit d'accès, vous pouvez vous-même faire la soumission de projet. C'est très simple. Ça se fait en trois étapes. Information de base, c'est tout ce qu'on vous demande, de cliquer sur les secteurs, sous-secteurs, le titre, les pays, etc. et le CER dans lequel vous êtes. Ensuite, l'étape 2, c'est l'étape d'alignement stratégique. On ne peut pas passer à l'étape suivante. Il faut déjà valider cette première phase pour pouvoir passer à l'autre étape. Mais on va peut-être voir un projet déjà soumis. Comme ça, vous allez voir de quoi ça a l'air. Donc, dans projet, si vous cliquez sur projet proposé, voilà la liste de tous les projets. Et vous avez ici un filtre qui vous permet de filtrer. Par exemple, pour le moment, il y a 4 projets sur le secteur de l'eau, 8 sur l'éthique, transport, etc. Et c'est classé par région. Donc, dans la région Nord, on va voir. Peut-être, Younes, il faudrait admettre les gens parce que vous avez aussi le droit de co-host pendant que je présente. Et dans la région Nord, voilà, il y a 2 projets seulement. Voilà les 2 seuls projets dans la région Nord. C'est les 2 projets soumis par l'Égypte, donc Vicmed et Nafissat dans l'aérien. Mais on n'a encore rien en fait. C'est le seul, disons, l'Afrique Nord francophone est le seul parce que vous n'avez pas encore eu la formation où on n'a pas encore de projet. Donc le focus de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'abord de terminer la formation et ensuite de discuter sur comment on va faire la soumission de projet, peut-être quel projet soumettre et l'allocation des responsabilités. Et quand on regarde OUMA ici, vous voyez bien, il y a 0 en fait. Il n'y a aucun projet de OUMA encore. Les 2 seuls projets Nord viennent de la COMESA, de l'autre, en fait, de l'autre côté, chez les pays francophones. Donc, si on regarde, par exemple, allons voir un exemple plus simple. En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de projets simples qu'on peut regarder. Et vous allez voir sur le site, une fois que le projet est validé par le CER, il passe en vert. Automatiquement, la couleur change pour vous montrer que ce projet-là, il est vert et donc il a déjà été validé par le CER. Mais les autres qui sont toujours en cours de renseignements, d'information, ils sont grisés comme ça. Et une fois que c'est validé par le REC, il va passer au vert et à ce moment-là, on pourra nous aller commencer à regarder, à faire le screening du projet, etc. Donc, quand vous regardez le projet, allons dire, on choisit un projet validé. Allez, celui-là, allons prendre le corridor Praia Dakar Abidjan, par exemple. Si on clique dessus ici, ben, vous allez voir déjà les informations de base. C'est l'étape 1 donc, que je vous ai montré. Là, vous cliquez sur les secteurs sous-secteurs, donc transport, sous-secteur road, donc route. Bon, peut-être que j'aurais dû prendre un projet francophone, en fait. Hein, effectivement, je n'ai pas pensé, je n'ai pas fait attention. Il y a peut-être des projets qui sont en français. Alors, on va prendre un projet francophone. Peut-être celui-là. Projet d'électrification rurale, Prodel 20 000 villages. Voilà, il est en français. C'est un projet d'énergie, distribution électrique. Vous voyez, dans ce cas particulier, comme il n'y avait pas de sous-secteur déjà pour la partie électrification rurale, ce projet a été classé dans « autre » et ils ont dit que c'est distribution électrique. Donc, voilà un exemple de comment on peut adapter le projet à la grille de soumission. Voilà les États membres, en fait, tous les pays de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, les pays bénéficiaires, c'est les mêmes, c'est la CEDEAO, etc. Et quand vous regardez dans l'aliment stratégique, ben là, c'est là que vous voyez, il faut donner la source dans quel plan directeur, une brève description du projet, les objectifs et rationnels de ce projet. Et ensuite, c'est le fameux critère que Younes vous a expliqué, c'est est-ce que c'est existing au plan de projects, donc c'est là qu'il faut dire quels sont les autres projets qui sont existants dans ce couloir, en fait, dans n'importe quel autre secteur de PIDA. Et là, il faut dire, en fait, en fonction du choix, il faut expliquer un peu d'écrire en fait quelle est cette autre infrastructure qui existe ou qui est planifiée. Les spécifications techniques, la taille du marché, les budgets estimatifs de ce projet, dans ce cas, un projet de 2,6 milliards de dollars pour 20 000 villages. Et puis, les actions pour le genre, comme on vous a expliqué, dans ce cas, ils ont prévu 3 actions. Et puis, le last milestone, donc en fait, l'étape à laquelle on est arrivé, on est à l'étape S1, et ces étapes-là font référence à la classification de AODA que vous pouvez voir sur le site de VPIC, S1, S2, etc. Et puis, si vous avez des documents, vous pouvez upload les documents. Vous pouvez télécharger, en fait, mettre les documents en ligne pour qu'ils soient accessibles. Après ça, c'est une fonctionnalité.
C'est toujours bénéfique de tâcher, par exemple, les cartes. La carte, par exemple, si vous avez un tracé, c'est comme ça pour faciliter de localiser, de voir juste pour calculer les autres critères.
Exact. Et en fait, le champ où on met la carte est en fait différent. Dans ce cas précis, ils n'avaient pas mis de carte. C'est pourquoi il n'y a que le document, le rapport qui existe, qui a été uploaded. Mais je vais vous montrer un autre exemple où on peut mettre les cartes. Et dans le guide, vous avez sur le site le guide de soumission qui vous explique en fait sous quelle forme vous pouvez mettre la carte ou les coordonnées GPS ou un fichier Google Earth, etc. C'est bien expliqué dans le guide en fait, le guide de soumission. Et cette fonctionnalité en bas ici, c'est très intéressant. C'est un genre de discussion forum qui malheureusement n'est pas trop utilisé, mais qu'on espère qu'une fois que les projets seront là, c'est ce que vous pouvez utiliser pour discuter en fait, pour communiquer entre les membres, entre les pays, entre le CER et les pays membres, ou alors pour faire la revue par les pairs. Allons dire, vous voulez avoir le commentaire de vos collègues de n'importe quelle autre région, pays, CER, etc. Vous pouvez poser une question et demander leur avis. Ils peuvent regarder votre projet et vous donner des conseils et leur avis si c'est quelque chose que vous voulez tester en fait. Ok, donc voilà en fait les 7 étapes. Et puis étape 3, c'est les contacts. Donc il y a un contact principal et un contact supplémentaire. Dans ce cas, à la CDAO, en fait, c'est un cas particulier où ils ont choisi de centraliser la soumission. Donc, c'est le CER qui centralise tout. Et dans beaucoup de cas, c'est eux qui font la soumission et c'est eux qui apparaissent comme le point de contact. Dans d'autres CER comme la SADEC que nous allons voir demain, eux, c'est un peu dans l'autre sens. Ils préfèrent que ce soit les pays et ils ne font que la validation. Donc, c'est ça que j'avais dit. Il faut, dans le cadre de UMA, Région Nord, il faut faire une décision, un choix. Quelle approche vous allez utiliser? Est-ce que tout va être centralisé au niveau de UMA ou ça va être décentralisé complètement au niveau des pays ou bien un mix? C'est-à-dire que vous pouvez dire à UNES, OK, moi je voudrais inscrire tel projet, mais voilà le projet. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, UNES va vous dire, OK, allez-y, faites-le, mais je vais le valider. Certains projets vont être faits en centralisé et tout. Donc voilà, en gros, c'est tout. Et à un moment donné, à la fin, parce que là, on est en mode view, hein, en mode visuel, en mode de voir les projets, mais en mode de soumission, vous allez voir, il y a un bouton en bas, ici, qui s'appelle validation. Et une fois que c'est validé, et il n'y a que UNES, en fait, il n'y a que le REC, que le CER, que les membres CER avec les droits REC Focal Point qui peuvent faire cette opération. Une fois que c'est validé, c'est parti, c'est-à-dire que c'est là que le projet devient vert, en fait. Vous avez vu sur la liste, il y a des projets qui sont en vert. C'est des projets validated où le CER considère que toutes les infos sont déjà à jour et ils n'ont plus rien à rajouter, donc ils valident. Et là, ça nous indique à nous, c'est un signal que nous, on peut y aller, on peut commencer à scruter ce projet parce qu'ils ne vont pas y toucher encore après. Voilà. Je crois que ça résume le processus. Très rapidement, je vais repasser rapidement pour les nouveaux, en fait, les membres qui viennent de s'inscrire, qui ne sont pas encore inscrits. L'avantage de vous inscrire, même si vous n'êtes pas point focal, comme notre collègue du Maroc qu'on vient de voir, même si c'est votre chef qui est point focal. Allô? Allô? Vous m'entendez?
Oui, oui, oui.
Je crois que j'étais interrompu pendant quelques secondes, là.
Exactement.
Oui, il faut recommencer. Donc, je disais qu'on avait vu, en fait, la soumission de projets. On a vu, en fait, les projets proposés. Voilà. Oui, ça, c'est la liste des projets. Et en fait, quand c'est en grisé comme ça, il est encore à l'état draft, en fait, à l'état brouillon. Donc, il y a, en fait, trois états. Soit il est un peu à l'état brouillon, ça veut dire qu'il manque beaucoup d'informations. L'état brouillon, ça veut dire que quand il y a des champs obligatoires, les champs obligatoires, c'est les champs où il faut absolument renseigner, qui sont vides. Là, le système détecte ça et il appelle ça un draft. Automatiquement, il le signale comme ça, il le surligne en jaune, draft, brouillon, et il le met en un peu couleur jaunâtre là. Sinon, quand tous les champs sont renseignés, il devient gris, mais il n'est pas validé. Donc, vous avez toujours le droit, l'opportunité de revenir changer tout ce que vous voulez, tant que vous voulez, jusqu'au 30 juin. Arrivé au 30 juin, quel que soit l'état du projet, ben, il y aura le deadline, en fait, la date limite, et on va récupérer les projets tels quels. Mais bon, si le projet est complet, tout ce qu'il faut faire, c'est venir cliquer en bas sur le bouton « Valider ». Le REC va valider et ça va passer en vert. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est complet et c'est validé. Ok, voilà les trois états possibles de projet sur le site. Et on a vu juste avant les formulaires de soumission. Maintenant, ici, sur le menu téléchargement, vous avez accès à tous les documents. Donc, vous avez même des documents en arabique. Hein, la note stratégique et le rapport analytique sont les deux documents principaux. Ils ont été traduits en arabique, que Younes a bien voulu un peu corriger, revoir et tout. Donc, ils sont disponibles pour ceux qui auraient des difficultés avec le français ou l'anglais. Et les versions françaises ou anglaises sont là. Il est même traduit en portugais, mais on va le poster dès qu'on a fini le formatage. Alors, ensuite, vous avez tous les rapports et les présentations. Donc voilà, vous avez ici, vous m'entendez toujours, ça va? Ouais, je vérifie de temps en temps au cas où c'est décroché.
Oui, oui, oui.
On ne voit pas l'autre écran quand je projette ça.
Donc, on vous attend, mais on voit pas l'écran maintenant.
D'accord. Bon, ça veut dire que quand c'est décroché, il faut recommencer l'opération de share. Ok.
Entre-temps, je profite, Krishna.
Oui, vas-y.
Entre-temps, je profite pour présenter mes deux collègues de l'UMA, qui sont avec Focal Point. C'est M. Hassan Bouti qui est connecté maintenant. Bonjour Hassan. Et M. Nourdine Aboulaïd.
Bonjour.
Qui est le directeur infrastructure. Mais il n'est pas connecté. Mais Hassan, vous le voyez ici, il est connecté. C'est le REC Focal Point. Il est l'expert aussi à l'UMA. Donc, ce sont mes deux collègues qu'on va travailler pour valider les projets.
Mm-hmm.
Voilà.
OK. Vous voyez maintenant ça, c'est le homepage, la page d'accueil de PIDA. Vous voyez la page d'accueil? Allô? Vous voyez la page d'accueil? Allô? Ouais. Bon.
Non, merci. Je remercie les organisateurs. On est là. On va travailler ensemble. On va voir avec la concertation avec nos pays. De sélectionner les projets qu'il faut. Ok, merci.
Merci.
Ok, Vous voyez le site maintenant?
Oui.
Ah, super. OK, donc ça, c'est la page téléchargement où vous avez accès à tous les rapports et présentations qui ont été faits, en fait. Par exemple, les présentations sur les webinaires, tous les manuels, le matériel de formation qu'on a utilisé pour les formations à Libreville, à Abuja, au Gaborone, et les rapports, en fait, les rapports de ces ateliers physiques. Ça, c'est pour aujourd'hui, en fait. Ce que vous a présenté sont là. Hein. Matériel pour la formation Région Nord, c'est ici, c'est ce qu'on vient de vous présenter. Et vous pouvez cliquer sur anglais ou français, choisir la langue que vous voulez. Ensuite, vous avez ici événements, c'est ben les webinaires, le programme des webinaires. Donc, ça, c'est le programme. On est aujourd'hui le 2. Donc, on est là. Et voilà le lien Zoom que vous avez utilisé. Donc, si vous n'avez pas reçu d'invitation, si vous avez perdu le mail, si vous ne vous retrouvez pas, très simple, vous allez sur le site. Les Zoom et les passwords sont toujours là, sur le site, les derniers, en fait. Donc, c'est là que vous pouvez les récupérer à tout moment. Et vous pouvez aussi copier et envoyer à vos collègues ce que vous voulez inviter et tout. Et vous avez ici les webinaires passés. Donc, ça, c'est l'enregistrement de tous les webinaires qu'on a fait depuis le début. Il y en a eu 12. Aujourd'hui, c'est le 13e. Et vous pouvez écouter à votre guise tous les enregistrements de tous les webinaires. OK. Et vous avez ici la fonction « Nous contacter ». Vous pouvez à tout moment envoyer un query, un mail, et ça va atterrir sur l'adresse PIDAPAP2. On va vous répondre là-dessus tout de suite. Et bon, voilà. Ça, c'était le site. Je crois qu'on va revenir sur les questions. C'était surtout par rapport pour répondre à une des questions. Alors, chat, voilà. Bon, peut-être que... Oh là là là, en fait, le problème, c'est que quand c'est déconnecté, j'ai perdu, en fait, les... OK, je crois qu'aujourd'hui, on a un gros souci avec l'Internet du côté de Addis, parce que j'ai essayé deux types de connexions, mais...
Donc, sinon, je peux les citer, Krishna, je les ai sur mes yeux.
Allez, vas-y, je pense que c'est mieux, parce que moi, dès que je suis déconnecté, tout s'efface.
D'accord, donc je vais lire la question qui suit. C'est une question de Sarah Tuzi, de la Tunisie. Le projet qui émet le moins d'émissions est classé premier. Est-ce que la comparaison entre projets se passe entre un même secteur ou intersectoriel, ou entre les projets d'un même REC ou de tous les REC? Est-ce que vous pouvez préciser des exemples d'actions genre? L'exemple présenté n'est pas très concret. Pour la première, je pense, pour la première question, il pose la question, est-ce que la comparaison pour l'émission du CO2, est-ce que se passe entre un secteur ou plusieurs secteurs? Donc, je pense que tu me corriges si je me trompe. Donc, je pense que la comparaison se fait en comparaison avec tous les projets du même REC, du même région. C'est pas du même REC, mais de la même région. Donc, on fait la liste de tous les projets de la région, on fait le score de chaque projet, on fait la notation proportionnellement au projet. Voilà la réponse. Des exemples de genre, d'action de genre.
En fait, je rajouterai quelque chose. Il y avait une autre composante dans la question. Sa question, c'était, pour faire simple à la réponse, il y a un pool, en fait. Ça s'appelle le pool régional Nord. Allons prendre un exemple concret. Allons dire dans la région Nord, il y a 5 pays. Tous les pays de la région Nord, donc l'Égypte, anglophone, francophone, on va mettre tous les projets qu'on a reçus dans cette région Nord ensemble, de tous les REC, que ce soit de la COMESA, que ce soit de OUMA, on les met tous ensemble. Et pour les trois critères proportionnels qui sont climat, emploi et connectivité rurale, on évalue tous les projets, c'est-à-dire que dans n'importe quel secteur. Hein. Voilà. Et ensuite, on va c'est après ça qu'on alloue la proportionnalité, c'est-à-dire le meilleur projet. Donc, par exemple, le projet le moins polluant, reçoit 5. Et le projet, et on regarde quel est le projet le plus polluant. On a le delta, et ensuite on fait une règle de 3. On alloue les. On démarque en fait 4,5, 3, etc. On donne la notation par rapport aux mauvais élèves en fait. C'est-à-dire que les mauvais projets, les projets les moins performants par rapport aux critères sont dévalués par rapport aux meilleurs projets. Et ça, c'est dans le pool et c'est à travers tous les secteurs. Je crois que ça répond à la première partie de la question. Par rapport aux critères genre, je ne sais pas si on a des membres de Anwin qui sont connectés, mais par rapport aux critères genre, en fait, c'est des intentions d'action, mais très liées à l'achat, au procurement, donc à la fonction achat. Achat de services et de matériel et de construction, etc. Dans la chaîne de valeur de construction et de conception, quelles sont les intentions, les actions proposées pour renforcer le genre? Et quand on dit genre, en fait, ça, c'est dans les deux sens, c'est les deux genres. Mais il se trouve qu'actuellement, il y a un fort déséquilibre. Les femmes sont très mal représentées. Donc, quand on dit genre dans ce contexte, ça veut dire qu'on essaie de rééquilibrer l'équilibre, en fait, de restaurer l'équilibre. Donc, qu'il y ait plus de femmes dans les métiers de la construction, de l'infrastructure. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Younes, à
oui,
vous.
Oui, je peux. Oui, d'accord. Ah, je peux passer à la prochaine. La prochaine question.
Bah, allez-y.
Alpha Oma. N'est-il une nécessité de solliciter dans chaque pays la nomination d'un point focal genre dans chaque pays de l'Union africaine?
Ben, en fait, à ce stade, pour le processus PIDA tel quel, il n'y a pas vraiment de nécessité, de besoin. On n'a pas demandé. Ce qui a été demandé aux États membres à ce jour, c'est les 4 points focaux dans les 4 secteurs. Donc, eau, énergie, transport et éthique. Mais effectivement, c'est cette question de point focal genre va se soulever. C'est toujours c'est pas encore décidé, mais ce qu'on essaye de faire au niveau de PIDA, c'est de faire une formation en fait à distance, de créer un cours, un e-learning course, qui va être dispensé au point focal. Et en fait, justement, c'est là qu'il faudra peut-être un point focal genre par pays. Mais ça va devenir ce sera dans un deuxième temps, après qu'on ait eu la liste de PIDA et tout. C'est pas pour maintenant, ce sera pour l'année prochaine, je pense.
D'accord. La question qui suit, c'est de monsieur Ben Mansour Hayat. Bonjour. Sur quelle base et quels critères seront utilisés par les REC pour valider les projets? Est-ce que les REC peuvent soumettre des projets sans qu'ils ne soient proposés par les pays?
Ah, très bonne question. Younes, vous voulez commencer la réponse et puis je vais compléter éventuellement?
D'accord. Donc, moi, je vais parler principalement de la région Ouma. Donc, parce que je sais que d'autres régions ont adopté d'autres approches, mais apparemment, si Monsieur Hassan qui écoute, ce qu'on a dit, au niveau de la région Nord, c'est les pays qui vont proposer des projets. C'est eux qui vont proposer des projets. Les REC, on va valider, on va discuter. Peut-être on va les aider s'ils ont besoin d'aide, on doit collaborer, on doit peut-être les aider à avoir des idées de projets. Mais ce qui a été convenu, c'est que les projets émettent viennent des pays. Parce que l'objectif, c'est l'implémentation, c'est l'implication des pays finalement. Bon, si tu veux ajouter quelque chose, Krishna. Bon,
oui, en fait, je dirais qu'il y a un spectre. Je dirais qu'il y a un spectre de dans les deux extrêmes. Ce qu'on essaye de réconcilier par cette approche, c'est deux choses. que le REC, la validation par le REC, nous permet d'avoir une certaine cohérence régionale, en fait. Parce que n'oubliez pas, PIDA, c'est l'intégration régionale. Hein. Le critère d'éligibilité que UNES a présenté est très clair. Le projet doit être un projet transfrontalier, cross-border, avec une, qui montre preuve à l'appui que ce projet a l'appui, a le support à des documents signés entre les pays concernés, etc. Donc, ça, c'est l'approche régionale. C'est ça, la validation. Le rôle du REC va être de vérifier. Et une des façons, c'est de voir dans son plan directeur, le plan directeur du REC, est-ce que ce projet y figure ou pas? Si ce projet a déjà été documenté, répertorié comme un plan, un projet stratégique, critique, prioritaire d'intégration régionale dans le plan directeur du REC. Et sinon, si ce n'est pas dans le plan directeur, ben est-ce que c'est un nouveau projet, mais qui fait l'objet d'accords très clairs, qui n'est pas de conflit, etc. L'autre extrême, c'est de dire, pour éviter ce que vous venez de dire, que le REC, en fait, vienne avec les projets et que les pays membres sont soit pas au courant, soit pas d'accord, c'est ce qu'on appelle en anglais l'ownership. Je ne sais pas comment on dit ça en français, ownership. L'appropriation par les pays des projets. OK? Il faut que les pays se sentent concernés, se sentent tout à fait concernés, empowered, quoi. Donc, c'est eux qui sont en train de piloter, c'est leur projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'implémentation se fait par les pays, hein, pas par les REC. C'est le pays qui va implémenter, qui va faire la construction, etc. Donc, voilà un peu la réponse. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Et je crois que l'approche de Ouma est bonne. Donc, vous discutez avec le REC, Ouma ou COMESA, hein, parce que n'oublions pas, il y a COMESA aussi, la Tunisie est membre de la COMESA, par exemple, l'Égypte aussi. Et donc, vous discutez, vous tombez d'accord, vous faites votre saisie de données, et quand vous êtes content, vous dites à UNES, voilà, vérifiez, il jette un coup d'œil. Peut-être qu'il peut poser quelques questions, vous allez peaufiner un peu et puis il clique sur valider, ça y est, c'est bon, le projet est accepté et est validé et rentre dans ce qu'on appelle la long list.
Oui, merci Krishna. Merci, c'est clair. Ouais. Il y a une question de M. Ben Abou Abdelraouf, représentant du point focal Énergie Maroc. Mes questions sont les suivantes. Question numéro 1. Les critères de sélection sont trop détaillés et les fiches de projet ne vont pas contenir ces détails car ça dépend de la phase de développement du projet. Nécessite des études pour avoir ces informations sur le genre, la connectivité au monde, rural, l'environnement. Cela peut louper des projets importants qui sont en phase de développement initial. C'est ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, pour les projets énergie, en particulier électrique, il y a les projets de production et des projets d'interconnexion. Pour la production, il faut savoir que la réglementation interne des pays généralement ne permet pas la réalisation de projets communs ou régionaux de production d'électricité, ce qui exclut les projets nationaux importants du scope des projets PIDAPAP 2. Pour les interconnexions, ou l'impact direct sur le genre et la connectivité au monde rural n'est pas clair et difficile à évaluer et ça dépend de la phase du développement du projet. Est-ce que les études de faisabilité sont détaillées ou pas encore? Question numéro 3. D'autres critères sont très importants pour l'électricien. Exemple, la sécurité d'approvisionnement assurée par les interconnexions et par le transport de l'électricité à l'intérieur d'un réseau national. Mais ces critères ne figurent pas dans la liste des critères de sélection, ce qui défavorise le choix des projets d'interconnexion. Question numéro 4. Quelle est la valeur ajoutée de l'Union africaine et ses partenaires dans le projet PIDAPAP 2, puisque les projets doivent avoir une attractivité financière et les avantages imposés par les critères de sélection?
Wow. Bon, je crois que c'est une longue liste, en fait. Allons prendre un par un. Allons prendre le premier, peut-être, si je peux rappeler rapidement.
Voilà.
On fait le premier et puis on répond, on passe au deuxième. Donc, c'était quoi le premier, la première? Moi, j'ai pas
Le premier, c'était les critères de sélection sont trop détaillés et les fiches de projet ne vont pas contenir ces détails car ça dépend de la phase de développement du projet, nécessite des études pour avoir des informations. Donc,
je pense alors, je vais répondre à cette question déjà. Peut-être que je vais commencer et puis je vais…
Oui, oui, vas-y, vas-y, Krishna, tu réponds directement, vas-y.
OK, donc en fait… moi je ne dirais pas vraiment parce que comme Younes a expliqué longuement dans sa présentation, quand vous regardez par exemple les deux critères les plus importants qui ont le plus de poids, impact économique et attractivité financière, ça n'a rien à voir avec le projet. On n'a pas besoin de voir le projet, il suffit de se déterminer à partir du pays qui soumet, la liste des pays, quand on calcule la moyenne de ID. Donc, on fait la moyenne de AIDI et c'est cette moyenne qui détermine la note nominale, en fait. N'oubliez pas, la note, c'est noté de façon nominale. Et la même chose pour l'attractivité financière, ça n'a rien à voir avec le projet. Ça c'est déterminé par le secteur, le type de secteur. Par exemple, TIC, tout ce qui est TIC, tout ce qui est informatique, tout ça, c'est historiquement très attractif, donc ça va scorer bien. Mais tout ce qui est barrage d'irrigation, c'est historiquement pas très attractif parce que le temps, le repaiement est très long, donc ça va scorer moins. OK? Et pour les autres critères, par exemple, tout ce qui est JA, tout ça, c'est des intentions d'action, donc pas vraiment besoin de faire des études, il faut dire qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, qu'est-ce qui est possible de faire dans ce secteur spécifique. Les critères ont été choisis ainsi parce qu'il fallait trouver un consensus, en fait, non seulement à travers les quatre secteurs, donc, critères suffisamment, je dirais, génériques, suffisamment, on dit, stratégiques pour qu'on puisse couvrir les quatre secteurs par les mêmes critères. Deuxièmement, par les 55 pays de l'Afrique, de l'Union africaine et les 5 régions. Donc, il a fallu forcément diluer un peu, enfin, pas diluer, mais trouver le consensus que tout le monde qui respecte, en fait, et après beaucoup, beaucoup d'efforts, ils sont arrivés à ce jeu de critères. Et je dirais que l'autre truc qu'il faut bien faire attention, c'est que c'est pas vraiment c'est la responsabilité du groupe de travail, du task force, d'aller fouiller, d'aller calculer, par exemple, le job creation, comment ça s'appelle, l'emploi. Mais c'est pas la responsabilité ni du pays, ni du CER d'aller calculer le nombre d'emplois. Ça se fait par AUDA. Ils ont un outil. On a parlé de ça, l'outil AUDA NEPAD qui va être utilisé pour calculer le nombre d'emplois créés. Et ça, c'est des experts de AUDA qui vont faire ça. Ils ont leurs critères, ils ont leur algorithme. En fait, donc voilà un exemple d'un. Ou c'est pas même chose pour la connectivité rurale. Tout ce qu'on vous demande, c'est les coordonnées GPS. Après, c'est l'équipe d'experts derrière qui vont aller fouiller, qui vont aller voir de face sur les GIS, sur les SIG, les systèmes d'information géographique. Quel est le degré de chevauchement, etc. C'est pas votre responsabilité. Donc, finalement, le gros du travail. Tout ce que vous avez à faire, c'est de renseigner les champs obligatoires qu'on a montré. En fait, il y a une étoile, en fait, vous allez voir, et de demander au REC. Il y a deux choses à faire, c'est de s'assurer à ce que toutes les informations dans les champs obligatoires soient remplies et de dialoguer avec le REC pour s'assurer que ce projet valide les critères régionaux, les critères d'éligibilité régionale. Et que le REC et ça forme partie du plan directeur du REC, etc. C'est tout. En fait, voilà les deux choses importantes à faire et il faut le faire avant le 30 ans.
D'accord, c'est clair. Merci, monsieur.
Oui, exactement. Et l'autre qui est pour préciser, est-ce que le projet est là d'interaction, de chevauchement avec d'autres projets actifs ou prévus? Est-ce qu'elle intéresse, par exemple, un barrage avec une centrale électrique ou bien quelque chose? Donc, c'est ça, des informations que peut-être on n'aura pas de détails.
Alors, je vous invite. Je vous invite. J'ai bien compris la question. Je me rappelle de la question d'Younes quand tu as lu la première fois. Moi, je vous invite à faire quelque chose de très intéressant, en fait. Si vous avez des doutes, moi, je vous invite de vous inscrire sur le site et allez voir. les projets de la CDAO. La CDAO est déjà soumise, a déjà validé en fait, les projets verts. Et vous allez voir, il y a des projets en français. Hein. C'est pourquoi ce qui est intéressant là-bas, c'est que vous n'aurez pas de problème de langage. Et vous allez voir comment ils ont, par exemple, dans le cadre du couloir Praia Dakar, etc., comment ils sont allés démontrer que ce projet est déjà en chevauchement avec d'autres choses. Par exemple, il y a des liaisons fibre optique qui passent par le même parcours, le même couloir, le même corridor que une route. Les rails, le réseau ferroviaire passent aussi dans le même couloir. Et ils ont bien détaillé ça. Et c'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'il faut dire. Voilà. Est-ce que ça chevauche de 25%, de 30%? Ça, ce n'est pas votre problème. Ça, c'est la responsabilité du groupe de travail. C'est à eux. C'est eux qui prennent la responsabilité d'aller mesurer, d'aller calculer, d'aller vérifier. Mais bon, bien sûr, plus vous donnez d'informations, plus ça facilite la tâche et plus vous faites un cas pour vous. Voilà.
Exactement. Voilà. Très bien. Très bien. Merci.
Younes, on passe aux autres.
La question qui suit, pour des projets énergie, en particulier électrique, il y a des projets de production et des projets d'interconnexion. Pour les productions, il faut savoir que la réglementation interne des pays, généralement, ne permet pas la réalisation de projets communs aux régionaux de production d'électricité, ce qui inclut les projets nationaux importants du scope des projets PITABAP 2, et pour les projets d'interconnexion où l'impact direct sur le genre et la connectivité du monde rural n'est pas clair et difficile à évaluer, et ça dépend en phase de développement du projet.
Est-ce que cette question, Christelle a déjà répondu à cette question.
Exactement. La question numéro 3, d'autres critères sont très importants pour l'électricien. Exemple, la sécurité d'approvisionnement assurée par les interconnexions et par le transport d'électricité à l'intérieur d'un réseau national. Mais ces critères ne figurent pas dans la liste des critères de sélection, ce qui défavorise le choix du projet d'interconnexion.
Oui, c'est une bonne question. Enfin, je suis moi-même électricien, donc je comprends votre question. Mais effectivement, comme j'expliquais plus tôt, c'est que ces critères ont dû être généralisés, quoi, hein, pour banaliser, je dirais, pour pouvoir satisfaire aux autres secteurs, l'eau, etc. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que n'oubliez pas qu'il y a ce caractère, en fait, de smart, en fait, le dernier critère, là, l'innovation. Vous pouvez faire ressortir que ce projet a un caractère innovant parce qu'il comporte, il cherche à renforcer la sécurité de fourniture d'électricité. Et revenant à la production par rapport à l'export, hein, effectivement, vous avez entièrement raison, hein, c'est comme un port. C'est exactement la même logique qu'on utilise pour un port. Un port est forcément situé dans un pays, donc c'est un projet national, mais avec un rayonnement régional, donc il va desservir un arrière-pays, un hinterland en termes de logistique. Mais la même logique pour une centrale, une grosse centrale. Allons dire les centrales de, je sais pas, au Maroc, les Nouas, Azad, tout ça, c'est des très grosses centrales qui vont forcément exporter dans la région, aux voisins.
Oui.
Donc, du coup, il suffit de montrer en fait dans les chiffres que, ben voilà, à un moment donné, probablement un pic. Et ça se passe dans le temps aussi. Hein. Vous avez les pics. À un moment donné, le pays va être importateur net. Pendant la journée, par exemple, le Maroc, je suis sûr, maintenant, est en train d'exporter massivement, d'exporter pendant la journée, peut-être d'importer à certains moments le soir, je ne sais pas. Quoique, ils ont des centrales CSP avec stockage. Donc, voilà un peu la logique. OK. Et bon, il faudrait qu'on… Allons passer rapidement sur les questions. Moi il y a un ou deux thèmes que j'aimerais soulever, surtout au Maroc, dans la région Nord, avant qu'on termine, parce que c'est très important. Donc, Younes, on passe aux autres questions à la suite.
Oui, il y a la question qui se répète toujours, Krishna. Quelle est la valeur ajoutée de l'Union africaine et ses partenaires dans le projet PIDAPAP 2, puisque les projets doivent avoir une attractivité financière, les avantages imposés par les critères de sélection?
Ouais, en fait, il faut voir les trois institutions qui sont, il faut voir leur chaîne, en fait. Hein. Je dirais que l'Union africaine se trouve en amont. La valeur ajoutée de l'Union africaine, c'est deux choses, je dirais. C'est d'abord l'approche d'intégration régionale et panafricaine, donc tout ce qui est tout le travail qui est en train d'être fait au niveau d'harmonisation, Single Electricity Market. D'ailleurs, je vous invite à les électriciens à vous connecter. On a prévu, vous allez voir sur le site, il y a un webinaire, un ou deux. On va essayer de faire peut-être, je ne sais pas si on pourra faire la version francophone, parce que tous les experts sont anglophones. C'est les experts de l'Union européenne. Ils vont présenter le travail qui est en train d'être fait à deux niveaux. D'abord, comment interconnecter tous les réseaux de transmission à l'échelle africaine. Et deuxièmement, l'aspect marché unique, électricité. OK ? Vous avez le même travail qui est en train d'être fait au niveau de l'aviation, le SATEM, Single African Air Transport Market. Donc, ça, c'est la valeur ajoutée, c'est d'apporter cette dimension du… Et puis, bien sûr, le AFCFT et le comment on appelle ça, le, l'accord continental du marché africain unique. Ça, c'est la valeur ajoutée. Deuxième valeur ajoutée, c'est la, je dirais, la validation politique. Au sommet des chefs d'État, c'est les chefs d'État qui décident, qui approuvent. Et une fois que c'est approuvé, une fois que le pays approuve, je veux dire, le pays il ne revient plus en arrière. Quoi. C'est approuvé au niveau politique, on a clarifié tout ça, tous les désaccords éventuels entre les pays voisins, membres et tout sont résolus à ce stade et on peut foncer vers l'implémentation, la recherche de financement. Et là intervient AUDA. AUDA n'est pas de leur rôle, c'est d'utiliser leur outil SDM, Toolkit, etc., Quick Check méthodologie, tout ça pour améliorer les projets, en fait, la qualité des projets, ce qu'on appelle le readiness, le niveau de préparation, de documentation, d'études, de projets. NEPA d'IPPF est une des sources de financement possibles. Et ensuite, vous avez la BAD et les autres bailleurs, les FIs qui sont là pour venir puiser dans ce vivier de projet, ce portefeuille de projet, à sélectionner des projets pour passer à l'étape, je dirais, d'études financières, d'études détaillées, etc. Voilà un peu la chaîne. Donc, l'Union africaine, c'est l'origine de la chaîne, quoi. C'est là qu'on va créer, en fait, les projets. On va les faire valider au moins au début de l'année prochaine. Mais après, il y a toute une machinerie qui se met en marche pendant pour la phase d'exécution. N'oubliez pas, c'est PIDAPAP 2, c'est 10 ans. Hein. C'est un projet qui va durer 10 ans. Voilà, en gros.
Okay. Merci, M. Krishna et M. Younes. Merci.
Merci, je t'en prie. Donc, il y a les autres questions. Merci pour la réponse. C'est Mme Benmansour Hayat. N'avait pas répondu sur la troisième question. Quel est le processus et quelles étapes et dates limites qui seront suivies par l'UMA pour collecter les projets des pays? La question à laquelle je n'ai pas eu de réponse, quel est le mécanisme qui sera suivi pour décider si les projets doivent être soumis exclusivement par l'UMA ou doivent être soumis par les pays? Je pense que Krishna a répondu à ça. Et que la date limite, je pense que c'est maintenant, c'est le 30 juin pour soumettre les projets par les pays.
Ouais. Oui, 30 juin. Voilà. Et Monsieur Ben Mansour, excusez-moi, enfin j'ai oublié, vous êtes de quel pays? Younes, Monsieur Ben Mansour.
Ben Mansour, Hayet, est-ce que c'est…
Vous avez levé la main, allez-y, vous pouvez parler, il faut désactiver le micro, Monsieur Mansour. Vous pouvez parler?
C'est de la Tunisie.
Ah, ok. Ben, je vais essayer de désactiver son micro déjà, unmute, voilà. Bon, je n'arrive pas à le faire d'ici. Vous pouvez essayer, Younes, d'activer son micro?
D'accord, je vais essayer.
Ah, voilà, c'est fait. Allez-y, voilà, allez-y, monsieur Mansour. Actif. Oui, monsieur Mansour, on vous écoute.
Je ne suis pas monsieur, madame.
Ah, madame.
Madame Hayat. C'est Hayat.
Ouais. Hayat, je suis
de la Tunisie.
Okay. Excusez-moi, ce n'est pas évident avec les noms. Donc, en fait, votre question en fait, est très pertinente. Hein. En fait, je crois que Younes, il faut un peu, je crois qu'il faut trancher en fait. Il faut qu'on décide là. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de Ouma et peut-être cas par cas, hein, pays par pays, même projet par projet. Et bon, il faut déjà peut-être, on peut avoir une autre conversation en dehors du groupe si ça ne concerne pas les autres. Vous êtes dans quel secteur déjà, madame?
Secteur haut transfrontalier.
Ah, ok, yeah. Ok. Donc, ben, dans ce cas, vous avez même des collègues qui sont experts dans l'eau. Hein. Vous avez, je crois, il y a Sarah Touzi, vous êtes toujours là? Elle est toujours là. Christine de Aouda Népad est là.
Je suis là, oui. Bonjour.
Voilà.
Bonjour. Hi, tout le monde.
Bonjour. Donc, vous avez, voilà, les deux experts dans le domaine de l'eau qui peuvent un peu vous guider. Dans le cadre de… Bon, il y a un choix peut-être à faire de votre côté, c'est de choisir déjà si votre projet va être validé, dans quelles règles. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tunisie, c'est soit Comesa, soit Ouma. Donc, je ne sais pas dans quel cadre ce projet dont vous parlez, est-ce que ça tombe dans le cadre de la Comesa ou de Ouma. Ça, c'est un choix que c'est le pays qui doit décider ou bien qui est déjà là, qui est dans un plan directeur peut-être. Et en fonction de ce choix, il faut se rapprocher de ce CER, les responsables du CER. On est là pour vous guider, moi-même, Christine, Sarah, Younes et tout. Et puis, commencer à structurer votre projet. Déjà, il faudrait vous inscrire. Je pense que vous n'êtes pas dans notre base de données, c'est pourquoi je n'ai pas reconnu. Si avant de partir, peut-être laissez-nous vos coordonnées, votre email, etc. Il faudrait déjà. La première étape, c'est de s'inscrire sur le site parce que c'est la seule façon de soumettre les projets. Et ensuite, on commence un dialogue par email, pas forcément public ici. Où on peut échanger des mails, mettre en copie les gens qui sont concernés et définir le projet, commencer à mettre un titre, comme ça c'est visible par nous, on commence à voir le projet et ensuite on peut vous guider étape par étape comment structurer, comment documenter ce projet pour aboutir à la validation finale par un des REC.
Je pense qu'on est obligé de passer par l'humain du moment que c'est un projet transfrontalier Tunisie-Algérie-Libye.
Ah, ben voilà, ça répond.
La Tunisie, c'est-à-dire membre de Comesa, mais les autres, non.
Donc, parfait. Vous avez tout, vous avez déjà répondu vous-même. En fait, voilà la logique. Donc, forcément, un projet de Ouma. Donc, Younes et son équipe qui viennent présenter. Et les deux collègues, Christine et Sarah Touzi, qui peuvent vous aider sur le plan technique, le plan sectoriel.
OK. Donc, Lubin… On doit passer par l'humain et l'humain qui doit coordonner avec les trois pays.
Oui, donc, par exemple, l'humain peut vous aider à faire cette coordination si vous avez des difficultés. Et si c'est, surtout si ce n'est pas encore, je sais que l'humain, c'est un des plus nouveaux, plus récents CER où il n'y a pas forcément de grands plans stratégiques tout le temps, n'est-ce pas, Younes? Peut-être tu peux commenter là-dessus un peu. Est-ce qu'il y a des plans stratégiques sur l'eau?
Non, il y avait, je pense que qu'on fait référence ici à un projet ou bien des projets qui ont fait déjà des études au niveau de l'humain. Je pense que là-dessus, le projet sera peut-être intéressant, pertinent. Il a passé plusieurs étapes, si je ne me trompe pas. Est-ce que si bien on parle du même projet du SAS? Mm-hmm. Là, il y avait déjà une étude qui a été faite. Peut-être le travail sera peut-être plus facile et la coordination sera plus facile à soumettre le projet.
OK. Pense. Et je vois aussi nos collègues d'IT Global. En fait, je voudrais aussi souligner, nous avons des experts de l'Union européenne. Il y a notre collègue Aziz qui est connecté. Je vois José Luis et Ricardo, tout ça. Donc, c'est des experts qui sont, et Gilbert et Adi, en fait, le team leader. Bon, malheureusement, je crois que l'expert en haut, dans ce cas, il est un peu anglophone. Donc, c'est monsieur, comment ça s'appelle? Monsieur Younes. Donc, mais il peut quand même vous aider si c'est des points techniques. De toutes les façons, il va certainement donner son avis sur le projet. Donc, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète un petit peu au niveau de l'humain, c'est le temps. On est déjà le 2. Le deadline, c'est le 30. On a pris du retard parce que formation et tout. Maintenant, il faut rattraper le retard. Donc, une ce qu'il faut faire, en fait, je crois que… Mais l'avantage de l'humain, c'est petit. Hein, ce n'est pas 20 pays. Ce n'est pas 15 pays comme la CDAO. C'est quelques pays. Surtout que c'est un peu…
Ne t'inquiète pas, Krishna, je pense sur ça. Et les projets vont tomber à la dernière minute, tous à la fois.
Il faut attendre la dernière minute, j'en suis sûr, car
tu sais, il y a le côté administratif de chaque pays, donc chaque focal point, il doit revenir à la hiérarchie, demander aux autres administrations de demander les projets. Voilà. Avec les points focaux, apparemment, le processus il est déjà entamé et les points focaux, ils ont déjà envoyé les demandes de projets aux autres secteurs ministériels. Elles attendent les réponses. Elles ont mis leur deadline avant le 30 juin, peut-être vers la moitié du mois.
Pardon, s'il vous plaît.
Oui. Allez-y, je crois que Madame Ayette a une autre question. Allez-y. Oui.
S'il vous plaît, j'aimerais bien demander un dernier éclaircissement à M. Younes. Pour le projet dont vous avez parlé, et je ne veux pas redire ce qui a été dit, les trois pays n'étaient pas d'accord. Donc, est-ce qu'il y a moyen que les trois pays proposent un autre projet à travers l'UMA, bien que le temps est limité, mais on va essayer. À travers le mécanisme du SAS, du moment que les trois pays sont chapeautés par le mécanisme, ils proposent un autre projet. Parce que le projet dont vous parlez tout à l'heure, qui a été proposé par l'UMA, les trois pays n'étaient pas d'accord. Donc, y a-t-il moyen de proposer un autre projet qui concerne les trois pays et on va essayer dans les meilleurs délais?
Oui, vous pouvez bien sûr proposer le projet que vous voyez intéressant pour les pays. Oui, mais à ma connaissance, bon, c'est une information que... C'est une nouvelle information pour moi parce qu'il y avait une discussion même au Pidaoui, je pense, pour le projet. Mais bien sûr, vous pouvez proposer le projet que vous voyez intéressant pour votre projet. Il y a Hassan, tu es là, tu peux commenter, tu peux dire quelque chose sur le projet. Parce que le projet a été fait dans le cadre de ça, c'est du PIDA, dans le cadre du PIDA Papouane. Il y avait même des ateliers, des rapports finaux et tout ça. Mais bon, c'est à ma connaissance, j'étais pas trop dedans dans le projet. Mais bien sûr que vous pouvez proposer des projets que vous voyez pertinents pour la région.
Donc, comment on peut être un peu, quoi, pour qu'on puisse faire un effort? Comment on puisse être, c'est-à-dire certain que le projet qui sera proposé, ce sera le nouveau projet et pas celui qui a été proposé avant?
Là, je peux intervenir. Hein. C'est très simple en fait. Hein. Si vous avez dit que le projet avant, il n'y a pas eu d'accord entre les pays, ben, c'est clair que Younes ne va pas valider ce projet. C'est évident. Je veux dire, on a bien expliqué qu'un des critères de base, en fait, d'éligibilité fondamentale
pour entrer dans la... Non, en fait, Krishna, c'était pas, peut-être, bon, corriger un petit peu, c'était pas l'accord pour le projet était entre les pays, peut-être les résultats de l'étude, apparemment.
Donc ils étaient d'accord sur le principe, mais ils n'étaient pas d'accord sur le
projet. Elle est dans le VPIC, apparemment, elle est déjà dans le VPIC.
Ok.
Dans le VPIC de Papouane. Donc, la démarche initiale, c'est OK, mais peut-être les résultats de l'étude qui a été faite, peut-être c'est là qu'il y avait des différences, si je me trompe.
Ah, mais ça, c'est autre chose. Je veux dire, s'il y a un...
Non, pardon.
Je vais vous expliquer. Ça a été, M. Hassan était parmi nous au mois de novembre au Pédawit. Les trois pays ne sont pas d'accord sur le projet en tant que projet. Ah. Nos amis, les Algériens, ils n'étaient pas au courant. Les Tunisiens ont refusé. Et nos amis les Libyens, quand on a discuté, ne sont pas très chauds pour ce sujet. Donc, peut-être, monsieur Talloa, il peut intervenir. Ça a été discuté avec les trois pays. Les trois pays, ils ont refusé ce projet qui doit être présenté par le PIDA, par l'UMA pour le PIDA. Monsieur Talloa, s'il est là, il peut, puisqu'il est le représentant du SAS, le mécanisme de concertation, il était là. Et les trois pays, ils ont proposé d'autres projets. Chaque pays, elle a proposé deux projets. On n'aura pas le temps, je pense, de proposer six projets. Mais le projet qui est proposé actuellement, il est sur la table de l'UMA. Les trois pays ne sont pas d'accord. Et merci.
D'accord. Oui. Hassan, tu veux dire quelque chose?
Okay.
Merci, Madame Hayat, pour ces éclaircissements. Mais on a souhaité que les pays, les trois pays, nous saisirent l'UMA pour qu'on sache leur position, parce que on n'est pas au courant de ce qui a été décidé apparemment. Donc, si les trois pays concernés ne veulent pas ce projet, on ne peut pas le présenter. Mais en même temps, on aimerait que recevoir un projet commun de ces pays.
OK. Donc, on essaiera entre nous, les trois pays, on va essayer de peut-être proposer dans les mers de lait.
Mais OK, avant 30 juin, c'est comme ça.
Bon, même si vous n'avez pas à ce stade trois pays, même les deux pays suffisent pour valider le critère. Hein, si vous avez deux pays qui se mettent d'accord, si c'est signé, c'est un peu acté quelque part. Comment on appelle un MOU, un Memorandum of Understanding ou une convention quelconque où il y a une preuve, en fait, vous pouvez documenter qu'il y a un accord des deux pays pour exploiter ce projet de polo, ben, vous pouvez le soumettre. OK.
Donc, je vous remercie, mais je tiens à spécifier à M. Hassan que l'UMA a été averti que les trois pays n'étaient pas d'accord. Et on a demandé même une réunion, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais l'UMA, officiellement, elle a été avertie que les trois pays ne sont pas d'accord sur ce qui a été fait et ce qui a été proposé par l'UMA.
OK. Bon,
Est-ce que vous pouvez prendre, par exemple, Madame Hayat, l'initiative, est-ce qu'on peut faire un webinaire, par exemple, spécial entre nous et on peut discuter. Tous les intéressés soient présents, on peut discuter pour attraper justement un petit peu de temps et par rapport au délai.
Ça, c'est une bonne suggestion. Merci.
OK, merci bien.
Ouais. Excusez-moi, Krishna, vous m'avez demandé peut-être une intervention, mais celle-là, elle ne va pas être technique. Hein. C'est juste peut-être pour clarifier certains éléments.
Allez-y.
Procédurons. Hein. Justement, lors de l'atelier organisé au PIDA Week en novembre dernier, il y avait cette expression que la Tunisie a rappelée juste à l'instant. Et le plus important, c'est qu'il y avait une proposition aussi d'organiser un atelier à l'époque qui devait se tenir lieu au mois de février 2021 pour justement surpasser cette peut-être confusion ou incompréhension, ou en tout cas pour arriver à un arrangement entre les pays pour la soumission du projet qu'ils voient intéressant pour eux. Donc, je pense que peut-être aussi avec les conditions du Covid, ça n'a pas été possible de l'organiser. Et je tiens juste à spécifier qu'à l'époque, en tant que facilitateur, on avait même proposé d'aider les pays à organiser cette consultation. Donc, si aujourd'hui, il est question je parle nous en tant que Global Water Partnership Méditerranée, si aujourd'hui les pays et l'UMA voient une utilité à ce qu'on les aide sur ce plan, on est toujours disponible et on peut aussi participer à ce webinaire, s'ils le souhaitent bien évidemment, pour apporter de l'expertise nécessaire et appuyer les pays pour faire rapidement la soumission du projet. Donc je resoumets cette disponibilité à l'UMA et au pays. Merci.
Oui, effectivement, Sarah, merci de le rappeler. Il y avait un atelier qui a été prévu pour ça. Ça, ce qui a été dit effectivement par Nordine et par Hassan, même, qui ont dit ça, mais peut-être avec les situations actuelles, il y avait peut-être un problème de budget. Mais maintenant, avec les webinaires et l'école, Sarah, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de prendre ce petit volet et d'organiser un conf call pour ça?
Absolument disposé, Younes. Je m'en occupe. Si juste peut-être, Younes, tu peux me saisir par email pour nous demander cette organisation de l'atelier et systématiquement, je réagis aussi avec les pays.
Ça marche. Okay.
Merci beaucoup, Younes. Okay.
Tu peux mettre ton mail juste là pour le copier.
Bien sûr, je vais te l'écrire dans le chat. Merci beaucoup.
Ok. Il y a une main levée de Madame Loudiyi. Et Younes, je pense qu'on peut...
Alors, en effet, vous m'entendez?
Oui, parfait, allez-y.
Voilà, donc, c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'avais levé la main, mais et Monsieur Younes et vous-même qui étiez en train de répondre aux questions écrites, et donc, il n'y a pas de souci, on a trouvé aussi des réponses à certaines autres questions. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative de webinaire. C'est très, très intéressant. Il y a beaucoup d'efforts à organiser tout ça, j'en conviens, mais ça permet d'avancer un peu sur ce processus du PIDAPAC 2. Donc, c'est une très bonne chose que je salue. Voilà, donc il y a trois volets pour lesquels je voudrais des petits éclaircissements. Donc il y a déjà beaucoup d'échanges autour du processus d'identification des projets et leur validation par les REC. Donc voilà, tout à l'heure il y avait une présentation directe sur le site. Vous nous avez montré les projets qui ont été déjà validés par l'UMA et qui sont devenus en couleur verte. Voilà, donc ça répond à une partie de ma question. Donc les pays, les États membres soumissionnent les points focaux, je dirais, soumissionnent leurs projets sur la plateforme. Et puis après, c'est l'UMA pour nous qui va valider ces projets-là. Voilà, j'ai compris. Mais après, est-ce que les pays qui ont soumissionné, est-ce qu'ils seront impliqués dans ce processus de validation ou est-ce que le REC va valider ou ne pas valider et ne va pas rentrer en contact avec le pays membre? Est-ce qu'il y aura des échanges, des concertations entre le pays qui a soumissionné et le REC pour essayer de faire en sorte que ce projet soit validé ou bien est-ce que ça va être validé ou non par le REC sans que le pays membre soit impliqué dans ce processus de validation? Voilà. Donc, et par la suite, est-ce qu'il y aura des possibilités, bien sûr, d'ajustement par le pays membre pour que ce projet-là puisse être validé et faire partie des projets qui seront retenus? Donc ça, c'est ma première intervention. Alors, une autre question qui est un peu, c'est juste, je voudrais juste comprendre l'approche binaire. Je pense que ça a été mentionné dans le volet critères d'éligibilité des projets. Donc, il y a deux critères d'éligibilité. C'est que le projet doit être à portée régionale et puis qu'il y ait, bien sûr, consensus entre les pays concernés par ce projet. Donc, est-ce que ces deux, l'approche binaire, je voudrais juste comprendre, est-ce que c'est les deux critères en même temps ou bien est-ce que l'un peut passer sans l'autre? Voilà. Alors, troisième question. Donc, comme a dit Younes, nous avons, parce que moi je représente le point focal national du secteur de l'équipement, transport, logistique et eau. Et donc, ça comprend beaucoup de secteurs, beaucoup de départements. Donc, nous avons interpellé les départements. On est en attente de leurs propositions. Donc, j'en ai déjà une idée sur certaines propositions. On en a discuté par téléphone avec des collègues. Ils en ont profité pour me poser des questions. Donc, entre autres, il y a une question sur les modalités de financement de ces projets-là. Donc, quels sont, les volets qui vont être financés par l'Union africaine ou autres intervenants? Et puis, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste les études qui seront financées? Est-ce que c'est les études et la réalisation de ces projets? Je ne sais pas. Donc, il y a des questions qui se rapportent à ces modalités de financement dont je n'ai pas pu avoir la réponse. J'ai lu les documents, j'ai tout téléchargé, mais il y a des volets de financement, ça reste un peu flou dans ma tête et je ne peux pas donner de réponse à nos départements. Voilà, donc c'est l'essentiel de mes questions. Je vous remercie.
Ok. Bon, Younes, peut-être que je peux apporter quelques points et puis vous pouvez compléter après. D'abord, la question sur l'implication des pays membres par rapport au REC. En fait, je pense que ça devrait être un dialogue permanent. Et d'ailleurs, on a prévu, si vous regardez la liste des webinaires, vous allez voir, le 23 juin, il est prévu un deuxième webinaire, mais cette fois-ci moins à vocation formation, mais plus à vocation validation, discussion sur des projets.
Okay.
Et le 23 juin, donc en fait, avant la date limite, hein, c'est déjà prévu. On a fait ça déjà pour la CDAO, ça s'est très bien passé. La CDAO a présenté la liste de 50 projets qui vont soumettre. Hein. La CDAO veut soumettre une cinquantaine de projets. Il y a déjà une quinzaine sur le site. Et deuxièmement, il est prévu, en fait, après la… Alors, il faut comprendre, ça a été dit dans un des slides, mais je peux revenir là-dessus rapidement. Après la date limite du 30, on sort, en fait, le task force, le groupe de travail sort d'abord une longue liste, puis une short list. Short list, c'est quand on applique les critères. Et ça ne veut pas dire que le projet est rejeté s'il n'est pas dans la shortlist. Et il rentre dans la release de réserve, en fait. Il attend. Et le jour où il y a de la place, je dirais, où on a épuisé, en fait, les 10 projets dans la shortlist, ben, les autres remontent dans la shortlist. Ça, c'est un élément. Mais bien avant ça, bien avant d'aller au sommet des chefs d'État en octobre, il était prévu au mois de septembre, ce qu'on appelle un Continental Validation Workshop. Donc, avant l'ère Covid, il était prévu d'inviter à Addis tout le monde, un représentant de chaque pays, pour venir physiquement à Addis pour discuter justement de ce grande liste, longue liste, short list, etc. Et c'était la plateforme, l'occasion de discuter, de tomber d'accord, pas d'accord, de donner son point de vue, d'ajuster et tout. Bon, quelle forme ça va prendre, je ne sais pas. Très probablement, ça va prendre une forme virtuelle parce que à ce jour, c'est extrêmement compliqué, difficile de planifier pour 55 pays quelque chose de physique, quoi, de voyage, confinement, etc. On ne sait pas trop. Donc, certainement, il y aura une concertation, je dirais, continentale au mois de septembre pour regarder cette liste. Et pour discuter, tous les pays auront l'occasion de donner leur point de vue, de discuter, etc. Ça, c'était une partie de la question. L'autre, c'était éligibilité. En fait, c'est l'un ou l'autre. Hein. En fait, soit vous êtes dans le plan directeur du CER, soit vous n'y êtes pas, mais il y a un accord. Et par exemple, c'est l'exemple donné par votre collègue de la Tunisie, là. Hein. S'il n'y a pas un accord sur un projet qui est dans le plan directeur, ben, il n'y a qu'à créer un nouveau projet où il y a un accord, c'est tout. Ça veut dire que je veux simplement démontrer que les deux pays au moins sont d'accord sur un projet et ça passe le critère d'éligibilité, c'est aussi simple. Pour les financements, comme j'ai expliqué dans la chaîne, on est encore à l'étape de définition de projet. C'est plus, je dirais, la dimension stratégique d'intégration régionale, et je dirais politique, en fait. Hein. C'est plus… PIDA, c'est quand même un projet stratégique et politique à ce stade. Une fois que la shortlist est établie, ça donne une priorité. Ça va être considéré de façon prioritaire par tout le reste de la chaîne. Donc, c'est qui? AODA NEPAD et la BAD. BAD et autres bailleurs, hein, pas seulement la BAD, mais tous les autres bailleurs de fonds et le secteur privé. Donc, pour répondre à votre question, vous avez par exemple NEPAD IPPF qui peut financer certaines études, même la BAD, si c'est un projet qui les intéresse, pourquoi pas, ils pourraient être intéressés à financer des études de faisabilité pour pour aboutir à un projet bancable. Voilà un peu la chaîne. Mais il faut commencer ici. Je veux dire, il faut pas, on ne peut pas à ce stade dire qu'on ne soumet pas de projet si on n'est pas sur la voie d'un financement. Ben justement, c'est un peu l'inverse. Pour avoir un financement, il faut soumettre le projet. Il faut s'assurer à ce qu'il soit dans la shortlist. Il faut le faire devenir le plus intéressant possible. C'est un processus très méthodique, très étape par étape. Donc, on est encore à la première étape. Je pense que c'est tout ce que j'avais noté. Je ne sais pas si j'ai raté Younes. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas traitées?
Non, en principe, tu as tout dit. Tu as tout dit, Krishna. En plus de l'appui politique. Donc, si le projet, lorsqu'il sera validé par les chefs d'État, donc il y a un grand, ça, pour moi, ça représente un grand pourcentage pour la réalisation du projet. Donc, si les chefs d'État valident les projets, donc ça veut dire qu'ils rentrent dans la chaîne nationale et le projet rentre dans le plan national de développement. Ça, c'est très intéressant. Et là, c'est que les bailleurs de fonds et les investisseurs auront ce soutien politique, ce soutien politique lorsqu'ils voient les chefs d'État valider des projets, ils les encouragent à investir. Donc, il y a l'État qui est derrière le projet. Donc, ça aide toujours à avoir des investissements. Et comme on a dit Krishna, pour les autres, il y a beaucoup d'institutions qui regardent. Il y a le Népal, il y a la BAD, il y a le JICA, il y a le GIZ, il y a tous les partenaires qui peuvent peut-être financer des études, des faisabilités, des montages financiers et les payer à faire le montage financier peut-être par la suite. Donc voilà.
Oui, tout à fait, Younes. Il faut, c'est une chaîne, c'est un portefeuille de projets, mais il faut déjà mettre les projets, s'assurer est-ce que les projets se retrouvent dans le portefeuille. Il ne faut pas oublier que c'est compétitif. Hein. Il y a une concurrence dans la région Nord. Donc, tout ce que vous allez soumettre, par exemple, dans les parties francophones, va être en concurrence avec ce que les anglophones vont soumettre. Et je vois même, peut-être je vais remonter sur une question qui est dans le chat box de quelqu'un, je pense, qui est de la Libye, qui dit qu'il ne parle pas trop français, mais il fait référence à des projets de NWSAS.
C'est M. Hossein Talloa de SAS.
Ok, voilà, c'est
de
ça.
De la Tunisie.
Voilà.
De la Libye, pardon.
De la Libye, ouais, voilà.
Okay. Permettez-moi juste de vous remercier pour vos réponses. Donc, voilà.
D'accord, super. Donc, ce que je voulais dire, on finit avec la réponse de la question par rapport à M. Hussein. Donc, il a proposé plusieurs projets pour inclusion dans PIDAN, not yet submitted. Mais oui, parce qu'on est encore au début. Donc, peut-être que Younes, au niveau de NWSAS, il faudrait revoir en fait quels sont ses projets et travailler pour les faire soumettre sur le site, sur le Poupida. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose de très concret. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Nous avons quelqu'un de NWSAS? Peut-être pas connecté là maintenant, mais bon, on va faire ce suivi pour voir c'est quoi ces projets et comment on peut les prendre en compte. Nous avons une question de Cassie, Madame Cassie, je pense, sur l'électrification rurale. Alors, je vous inviterai à encore une fois aller regarder ce que la CDAO a proposé, le programme PRODEL 20 000. Électrification de 20 000 villages, qui est une approche très innovante en fait. Et je vous inviterai aussi à vous connecter. Vous allez voir, il y a dans le programme, pour le moment, c'est prévu en fait. On a prévu deux sessions, mais je pense qu'on va faire une seule session. C'est la session sur l'électricité qu'on a appelée maintenant Sustainable Energy Access. accès durable à l'électricité, qui est prévu en fait le 16 et 18, si on fait deux sessions et une seule session, soit le 16, soit le 18 juin. Ou techniquement, initialement, on voulait parler du marché unique d'électricité, etc. Mais on est en discussion avec IRENA, en fait. IRENA, vous connaissez IRENA, l'agence IRENA, qui veut nous aider à rehausser le profil de l'énergie renouvelable dans le portefeuille PIDA. Donc, tout à fait. Pour répondre à votre question, oui. Il suffit que ce soit un programme, je dirais, régional, donc peut-être à l'échelle de Ouma. Si Ouma vient avec un projet, il faudrait vous inspirer de ce qu'a fait la CDAO, hein, très simple. Ils ont monté un modèle, ils ont identifié le besoin, petit village, type de village, etc. Et ils ont fait des kits solaires. Et en fait, là, le point commun, c'est, si vous voulez, l'achat groupé à la rigueur. Hein. Même ça, c'est... pas forcément. Quand on pense en termes de transfrontalier, on a tendance à penser en termes d'infrastructures qui traversent la frontière. Mais voilà un exemple de la CDAO qui a groupé, qui a créé un projet centralisé, un projet commun pour tous les membres de la région. Donc, c'est un projet régional, d'intégration régionale, parce qu'il y a forcément un élément qui est commun. Déjà, l'achat, la technologie, le partage de la technologie et tout. Mais il y a moyen, en fait, moi, je vous inviterai simplement de vous connecter aussi, d'aller voir ce que la CDAO a proposé et de vous inspirer de ça et de proposer un projet équivalent, quoi, pour la région nord, pour les pays, les zones rurales non connectées de la région. Je pense qu'on a... Avec ça, madame, est-ce que, je ne sais pas si elle est toujours connectée, madame Cassi. Oui, elle est toujours connectée. Est-ce que ça répond à votre question? Allô, madame Cassi. Bon, je sais peut-être qu'elle n'est pas.
Allô, allô.
Oui, madame. Bon, allez-y, on vous écoute. Est-ce que...
Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est bon. Donc, j'ai regardé, parce que tout à l'heure, j'ai regardé justement le modèle, mais je n'ai pas compris que c'était en fait des kits solaires. Ce que j'ai compris, que c'était en fait de l'électrification rurale. Peut-être que c'est des réseaux de distribution, mais…
C'est un mélange, en fait.
C'est pas des centrales diesel ou bien…
Non, c'est un mélange. J'ai lu le projet. C'est une combinaison. Dans certains cas, c'est une extension de réseau, où c'est possible. Dans d'autres cas, c'est des kits. Ou alors,
moi, ce que je n'ai pas vraiment bien saisi, en fait, quand je regarde que c'est un projet d'électrification rurale, notamment pour des régions isolées, en fait, ça n'a pas d'impact régional, ça a un impact national. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, comment peut-on en fait, remplir les critères d'avoir des impacts au niveau régional.
Okay.
Donc, c'était ça qui me posait problème. Donc, mais là, vous avez répondu à la question, donc ouais. Je vous remercie pour ça.
Mais ça, je pense que c'est la responsabilité du groupe de travail, en fait. C'est à eux de décider, mais aussi longtemps que le projet passe le premier critère, le critère d'éligibilité qui se retrouve dans la longue liste. Et comme j'ai dit, si on a en Afrique, et surtout avec Covid maintenant, hein, vous allez réaliser que la crise du Covid nous a fait reculer l'Afrique subsaharienne, surtout, de 10 ans, quoi. On a perdu 10 ans de progrès en termes de lutte contre la pauvreté, électrification, tout ça. Il y aura un impact massif qui est prévu. On ne sait pas trop ce que l'ampleur. Mais moi, la logique, c'est que je vais dire, est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut électrifier dans le modèle réseau et attendre 20 ans, 30 ans pour des zones isolées? Pas forcément. Je vais dire, en attendant que le réseau arrive, pourquoi ne pas imaginer une solution immédiate, même si c'est des kits solaires, hein. Pré-électrification, je dirais, de tier 1, hein, comme dit la Banque mondiale, tier 1, tier 2. Voilà. Donc,
Monsieur Krishna, excusez-moi, mais je voulais juste souligner qu'en fait, nous, en Algérie, quand même, on a des programmes très, très importants d'électrification rurale. Donc, on a quand même, on est à un taux de 99% d'électrification. Donc, il reste quelques régions qui sont isolées au niveau de l'extrême sud. Donc, l'idée de proposer des projets de centrales solaires avec une électrification des zones qui sont pas électrifiées là-bas, ce serait une bonne idée. Mais si on propose ça et que ça n'a pas d'impact sur le pays voisin, c'est ça qui nous posait problème. Ouais, bon. Mais si c'est possible, on pourra le proposer. Nous avons plein de projets qu'on prévoit de faire avec des centrales électriques et de l'électrification en même temps.
Ouais. Mais en fait, ça, c'est une idée que moi, j'avais proposée à l'époque quand j'étais un peu à la BAD aussi. Je suis passé un peu de temps dans le département d'énergie renouvelable et j'ai proposé une décentrale d'achat. En fait. C'est-à-dire que dans ce domaine, si c'est des kits solaires surtout, même si c'est des mini-réseaux solaires et tout, le fait de regrouper vos achats, donc si vous avez tous les mêmes besoins…
C'est-à-dire avec plusieurs pays, c'est ça.
Voilà, exact. Entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, je parle la Mauritanie peut-être, et les autres, si vous avez certainement des zones, comme vous dites, très isolées, qui ne sont pas électrifiées. Et forcément, il faut électrifier avec des moyens off-grid, quoi, des moyens autonomes, hors réseau. Et ben là, il suffit de définir le cahier des charges, type d'accès, type de matériel et tout, et de lancer un achat groupé, vous allez bénéficier de cette c'est exactement ce qu'a fait la CDAO. Hein.
Oui, justement, j'étais en train de regarder. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Hein. Merci pour les réponses. Hein.
Excusez-moi, merci. Krishna et Madame Cassie. Oui. J'ai compris, Madame Cassie, vous êtes de l'Algérie, n'est-ce pas?
Oui.
D'accord. Alors, je profite justement parce que je pense... C'est une idée qui peut être intéressante ou pas, parce que justement entre par exemple les trois pays, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, il y a ce bassin transfrontalier dont on était en train de parler, le SAS. Et bon, parmi les projets et les activités qui étaient proposées, c'était par le secteur de l'eau, mais finalement lié au secteur de l'énergie, c'était aussi de proposer des unités de solaire, de pompage solaire pour les utilisations de prélèvement d'eau, mais également pour l'amélioration de l'agriculture, etc. Et je pense que ça pourrait être aussi intégré, cette composante, si elle est intéressante particulièrement pour l'Algérie, l'électrification rurale, donc dans un projet qui pourrait être intégré à l'échelle de bassin commun transfrontalier.
Oui, oui.
Donc ça peut être
une bonne idée à exploiter, hein.
Donc, en ce cas, Madame Cassie, peut-être, parce qu'on peut, comme il y aura ce webinaire qu'on va essayer grâce maintenant à la proposition de Younes pour parler de la question de l'eau, peut-être que vous pouvez vous joindre avec les collègues algériens aussi à ce webinaire et peut-être poser une des idées à discuter et être intégrée dans un projet plus global. C'est juste aussi, sûr, encore une fois, juste une idée que je lance. Donc, Younes, peut-être, voilà, c'est une proposition. Si vous êtes d'accord, on pourra la poursuivre.
Ok, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Comme ça, il y aura un projet sectoriel. Bon, voilà. Okay.
Madame Cassie, peut-être vous nous laissez aussi.
Oui, j'ai les contacts de Madame Cassie. Je l'ai
déjà. Oui, Younes, il a mes contacts, mon email, ouais. Tout ça, donc mon numéro de téléphone et tout.
D'accord.
Parfait.
Bon.
Parfait. Merci, Madame.
Je vois encore une main levée de Madame Ben Mansour Ayet. On va peut-être, je ne sais pas si c'était tout à l'heure, mais avant de, il nous reste pas beaucoup de temps malheureusement. En fait, on avait prévu de s'arrêter à 15h.
Non, c'est-à-dire j'ai rien à ajouter.
D'accord, merci Madame. Ce que je voulais dire avant de terminer, je pense que je veux en profiter avant que de terminer pour vous lancer une idée. Et ce que je vais faire après ce webinaire, je vais circuler au groupe, tout le groupe du Nord, des quelques présentations en fait sur l'hydrogène. Et on a reçu en fait il y a le AEEP, AEEP. Et GIZ, etc., ils ont fait un travail de recherche avec l'Union européenne aussi sur l'hydrogène, les opportunités pour l'hydrogène, en particulier comme un vecteur, comme un storage pour la, le stockage d'énergie. C'est-à-dire, et ils ont, dans leur étude qu'ils ont fait sur l'Afrique, ils ont vu que les zones les plus propices, c'est les zones, en fait, là où vous êtes, le Maroc, Tunisie, Algérie, tout ça, là où il y a, en plein désert, là où il y a beaucoup de, d'énergie solaire et aussi d'éolienne dans certains cas, et où, où les load factors sont très élevés, où les facteurs de puissance de charge, les taux de charge sont très élevés. Et ça permet, en fait, à travers des technologies d'électrolyse, de convertir, en fait, de fabriquer de l'hydrogène sous forme de l'ammoniac ou une forme stable, pas forcément l'hydrogène liquide et tout. Et il faut avoir un port où on peut à ce moment-là exporter cet hydrogène, ce, ce combustible, qui est utilisé de deux façons, soit pour faire des fertilisants, soit comme un carburant dans les de bunkering quoi, pour les bateaux, pour les gros navires. Donc voilà, je vais peut-être circuler ces présentations, etc. Et comme il se trouve que les endroits les plus propices, les plus pertinents pour ce genre de projet sont dans la région nord, je pense au Maroc par exemple, hein, toutes les régions qui ont des ports dans la Méditerranée, si vous avez des réseaux de transmission, si vous avez de grosses centrales, gros projets d'énergie renouvelable avec un excédent à un moment donné, une façon, au lieu de faire des batteries ou une façon d'exporter de l'énergie, c'est la conversion à un carburant liquide et d'exporter. Et il y a un marché, il y a un fort intérêt. On sait que l'Union européenne est fortement intéressée par cette approche dans la transition énergétique, parce que n'oublions pas, transition énergétique, c'est pas seulement l'électricité, c'est aussi le transport, le carburant. Et qu'on ne sait pas trop encore faire. Donc, c'est le lien qu'il y a dans la transition énergétique si on n'arrive pas à trouver des solutions pour les carburants, les liquid fuels, ben on ne va pas y arriver. Voilà. Donc, je vais circuler ces présentations et on pourra en parler, mais discuter entre vous. Et dans ce cas, ça peut être un projet par un pays, mais d'intérêt régional, parce que allons dire un pays avec un port peut fabriquer, exporter, mais il peut acheter de l'électricité aux voisins pour le faire, quoi, à travers les réseaux. Donc ça devient un projet régional. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à produire de l'énergie et à exporter à travers le réseau pour dire que c'est un projet régional. Mais on peut faire l'inverse. On peut importer de l'énergie régionale, le transformer en carburant liquide et l'exporter. C'est un projet valide aussi. Donc, je vais vous circuler ça et puis partager ça. Et puis, on pourra en parler dans la prochaine webinaire Nord. Mais entre-temps, on vous invite, s'il y a un intérêt, à nous contacter comme on puisse initier un dialogue plus focus. OK. Younes, si tu veux rajouter quelque chose?
Oui. C'est un projet très, très intéressant, Krishna. Une idée innovante. Que j'apprécie beaucoup. Merci de partager. Comme tu as dit, les spécialistes de chaque pays vont voir ça et vont le discuter, revenir chez toi peut-être pour plus d'informations. Et si tu me permets, Krishna, pour moi, mon souci peut-être, c'est que on voit la représentation en peut-être beaucoup de Maroc, Tunisie, Algérie. Est-ce qu'on peut faire pour boucler, est-ce qu'on peut faire des relances à la Mauritanie, parce qu'on a un seul point focal, mais on n'a pas vu dans les webinaires. Est-ce qu'on peut faire une relance pour la Mauritanie? Pour le jeudi, on va voir est-ce que nos amis de la Libye vont être présents ou pas. Sinon, on doit faire une autre relance peut-être aussi pour la Libye, pour qu'ils soient actifs. C'est comme ça parce qu'on doit garantir, sinon le processus, tu connais le processus.
Oui, tout à fait. Mais les invitations partent à tout le monde. Hein. Oui. Que ce soit anglophone ou francophone, tout le monde est invité et choisissent en fonction de leur langue. Mais peut-être aussi.
Je voulais dire du côté officiel, donc la nomination.
Ah oui, d'accord.
C'est pas pour les webinaires.
Je vais voir, en fait, je vais relancer. Je vois juste M. Moudouba, qui est point focal haut pour la Mauritanie, mais je vais voir avec M. Béda, en fait, directeur Béda, qui est là-bas aussi, s'il peut nous aider à relancer en Mauritanie pour avoir.
Voilà, donc il est.
D'accord. Ok. Écoutez, je crois qu'on a eu une très très bonne session. Hein. Moi, je suis très content. Hein. Session très très constructive, très très focus sur les points techniques. On avance maintenant. Hein. Je crois que on a rattrapé en fait ce retard de formation basique, de questions. Je crois qu'il y a une bonne compréhension maintenant. S'il y a des doutes en fait, s'il y a des questions qui subsistent, malheureusement, effectivement, vos collègues ont eu droit à 3 jours, mais Covid nous a perturbé considérablement. Sinon, on aurait eu une formation quelque part en Afrique du Nord. Mais bon, on a essayé de rattraper ça. Et si vous avez n'importe quel genre de questions, de clarifications, n'hésitez pas à nous contacter, à envoyer un mail. Donc, on va vous répondre. Le site lui-même, il faut absolument que… Je vois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore enregistrés. Younes, peut-être là, il faut faire un suivi au niveau de Kouma, s'assurer à ce que les points focaux s'enregistrent. C'est le moyen de communication basique, en fait, pour voir, avoir une visibilité et avoir, en fait, accès à toutes ces données, ces présentations et voir ce que les autres sont en train de faire. Peut-être qu'il faudrait commencer à commenter. Hein. Vous pouvez soulever. C'est un peu comme Facebook. Hein. Je sais que tout le monde est actif sur les réseaux sociaux, mais bon… Là, c'est un peu probablement trop professionnel. Hein. Mais c'est exactement comme Facebook. Donc, vous mettez un commentaire qui est modéré, en fait. La seule différence, c'est que c'est modéré. On valide le commentaire, ça apparaît, c'est visible. Les autres, ils rebondissent là-dessus et on peut faire un truc très intéressant avec ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été utilisé jusqu'à maintenant. Donc, Younes, je ne sais pas s'il reste quelqu'un. Je pense que nos amis de la BAD ne sont pas là. S'il y a d'autres collègues qui veulent intervenir, Christine, je vois qu'il y avait Abdou à un moment donné, mais je ne sais pas. Je pense qu'il a dû se connecter un petit moment et puis déconnecter. S'il n'y a rien à rajouter, on est 3h30 ici à 10. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie tous pour une participation très active, très, très, très constructive, en fait. Et j'espère qu'on va pouvoir très rapidement attraper ce retard et soumettre au moins 10 à 15, une vingtaine de projets de la région Nord, quoi, au moins.
Merci à Krishna, merci les collègues.
Merci, monsieur Krishna.
Merci à vous. Merci.
Merci, monsieur Krishna. Je vous demande de bien vouloir nous envoyer les documents sur les projets.
J'envoie à tout le monde.
C'est ça. C'est très intéressant. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. OK. Younes, are you there, Younes? Hi, Younes, are you there?
Yes, I'm there, Kishi. Hello.
Could you please end the meeting so that I can get the recording?
Okay.
I'll stop. Let me. I'll stop the recording.